Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être commencer, si vous voulez bien, puisqu'il est passé 16h30. Je suis Thomas Bou, je suis le fondateur d'une maison d'édition qui s'appelle Rue de l'Échiquier et qui accueille depuis maintenant 2 ans une collection qui s'intitule « On arrête tout et on réfléchit », dont vous avez ici 3 auteurs. Capucine Dupuis de ma droite à ma gauche, Capucine Dupuis, Samuel Sauvage et Jacques Capla, que je vous présenterai plus avant tout à l'heure. Rue l'Échiquier, c'est une maison d'édition indépendante qui existe depuis 16 ans, qui est spécialisée sur les questions d'écologie, mais qu'on aborde de façon assez large, c'est-à-dire pas simplement pour les sujets environnementaux qu'on commence heureusement à tous connaître, mais aussi pour les enjeux politiques et sociaux qui peuvent être liés à ces questions. Donc on traite aussi bien de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, que d'inégalités hommes-femmes ou de pouvoir de certaines multinationales, de mobilité, d'organisation urbaine, etc. On publie essentiellement des essais. Cette collection, On arrête tout et on réfléchit, c'est un projet que nous avons avec Stéphane Kerkhoff, le directeur général d'Agir pour l'environnement, qui est photographe ce soir, en tête depuis très longtemps, depuis 10 ans. Je pense qu'on a commencé à y réfléchir et à s'arrêter il y a déjà effectivement 10 ans. Et elle a mis le temps nécessaire pour exister. Mais on est très heureux de la voir aujourd'hui s'épanouir. Il y a 7 titres au catalogue d'ores et déjà. Le principe de la collection, c'est de proposer sur des grands sujets donc liés à l'environnement et au combat que mène l'association Agir pour l'environnement, des livres de synthèse, 128 à 144 pages, donc des livres assez courts pour faire le tour d'un sujet qui peut être l'énergie nucléaire avec Stéphane Kerkhoff, les perturbateurs endocriniens avec Mélanie Popoff, aujourd'hui donc plastique, les pollutions plastiques avec Capucine Dupuis, la surconsommation avec Samuel Sauvage, l'agriculture industrielle avec Jacques Capla, et de proposer à la fois un diagnostic, les faits scientifiques qui, en cette époque de backlash et aussi de fake news, ont tendance à être mis en difficulté, et aussi d'ouvrir, à partir de cette réflexion sur les enjeux et sur les faits, des solutions et des perspectives pour que chacun, au niveau individuel, mais aussi surtout collectif, puisse être acteur et actrice d'une mobilisation. Ce qui caractérise, je pense, aussi cette collection, ça n'est pas un hasard, c'est l'approche systémique de ces sujets. On a publié chez Rue d'Échiquier, il y a maintenant 2 ans et demi, un livre fondateur sur la systémie qui s'appelle « Pour une pensée systémique » de Donella Meadows, qui était la principale rédactrice du rapport Meadows. On a souvent tendance à l'oublier parce que c'est Denise Meadows, chef de l'équipe qui a conduit à la publication des limites à la croissance, dont on entend beaucoup parler, mais c'est elle qui a tenu la plume et c'est elle qui, durant les décennies qui ont suivi, a beaucoup formé, sensibilisé à ces questions, en essayant justement de rendre compte que face aux enjeux majeurs qui se posent à nous, les réponses ne peuvent pas être simples face à la complexité des enjeux qui se posent à nous. On ne peut plus penser en silo et trouver des solutions simples à des questions complexe. Et cette approche, même si c'est de manière plus ou moins consciente, je crois, a beaucoup finalement contribué aussi à définir cette collection, parce qu'on va le voir avec chacun de nos auteurs, chacun de ces sujets mérite d'être approché de manière systémique. D'ailleurs, en introduction ou très vite dans le livre de chacun de nos auteurs, on parle de cette dimension systémique sans obligatoirement le dire aussi avec ces mots-là. Mais par exemple, Jacques, tu proposes un décryptage du modèle agro-industriel qui, évidemment, s'ancre dans une histoire et dans un système plus complexe qui est celui, tu vas nous l'expliquer, du capitalisme et de la révolution industrielle. Capucine. C'est également le cas avec ton livre sur les plastiques, je me relis mal, mais tu dis effectivement à quel point aujourd'hui l'industrie du plastique nous a plongé dans un système et nos habitudes également de consommateurs. Et Samuel, pareil, tu décris la surconsommation comme une spirale infernale dans laquelle on serait finalement tous tombés. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de... Nous avons presque deux heures, ce qui est super. C'est rare pour une table ronde. Donc, c'est de donner à chacun de nos auteurs et autrices la parole pendant 15 à 20 minutes maximum pour revenir finalement sur l'essentiel de ce que vous écrivez et décrivez dans vos livres, en partant du diagnostic de la situation dans laquelle on est sur chacun de vos sujets et d'ouvrir évidemment des voies d'amélioration désirables, on l'espère. Et ensuite, donc après l'intervention de chacun d'entre vous, l'idée ce serait d'avoir 15 à 20 minutes pour que vous puissiez vous répondre l'un à l'autre et peut-être compléter sur les sujets des uns et des autres l'approche proposée. Et on terminera évidemment par une demi-heure de questions-réponses avec vous qui êtes présents. Voilà, si ça vous convient. Donc, on va commencer dans l'ordre alphabétique et dans l'ordre de parution des ouvrages avec Jacques. On suivra avec Capucine et on terminera avec Samuel. Donc, Jacques, tu es l'auteur de ce livre, Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit. Je te laisse la parole.
Merci. Avec le micro marche. J'ai pas réussi à l'allumer, mais il était déjà allumé. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Enfin, on a mangé ensemble, donc bonjour, c'est rhétorique. Moi, je voudrais dire d'abord que le plaisir que j'ai eu à faire un livre dans cette collection, parce que ça m'a obligé à me renouveler un peu. En fait, ça fait l'approche systémique, justement, en agriculture, c'est un truc que je défends depuis toujours, mais en l'occurrence, dans des livres depuis 2012, qui était la date de mon premier.
Et je me permets de t'interrompre parce que je me rends compte que je ne t'ai pas présenté. Donc, je suis désolé pour ceux qui ne connaîtraient pas Jacques Capa, même si tu es connu comme le loup blanc ici. Mais voilà, Jacques, ethnologue, agronome, tu as fait beaucoup de choses. Tu as été conseiller agricole. Tu as été aussi président, ou en tout cas acteur au sein de la FNAB, la Fédération nationale pour l'agriculture biologique. Et tu es effectivement multi-auteur déjà. Tu as publié plusieurs livres déjà sur les questions d'agroécologie. Je te laisse corriger si j'ai dit des bêtises.
Alors oui, la FNAB, je n'ai pas été du tout président. La FNAB, c'est la Fédération bio des paysans bio en France. Par contre, je suis actuellement président de l'antenne française de la Fédération bio internationale, mais qui est plus une instance de coordination qu'autre chose. Mais j'ai travaillé à la FNAB, effectivement, entre autres dans mon parcours. J'ai aussi été un des créateurs du réseau Semences Paysannes. Donc voilà, donc mon parcours, il allait du terrain. Mon père était paysan, donc je viens du monde agricole. J'ai grandi au milieu des brebis et j'ai été d'abord technicien agricole de terrain et puis ensuite à différents échelons. Et donc, quand j'ai commencé, comme ça je reprends le fil, quand j'ai commencé à faire des conférences il y a 12-13 ans, je me souviens m'être dit, attention, faut pas que je passe ma vie à ressasser toujours les mêmes choses, parce qu'on a toujours tendance à ressasser un peu les mêmes recettes. Alors les gens qui nous ont jamais vus, ils apprécient, mais bon, c'est un peu, faut pas trop abuser non plus, quoi. Et ça tombe bien, parce que cette demande de ce livre est arrivée au bon moment, parce que ça fait très longtemps que j'expliquais à quel point, alors donc ça, j'en profite pour vous en dire deux mots quand même, à quel point c'est l'agriculture qui domine le monde, qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, puisqu'elle fait convention dans les institutions internationales, c'est une agriculture parmi d'autres. Il n'y a pas l'agriculture au singulier, universelle, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Il y a eu plein de formes différentes d'agriculture qui ont été inventées à travers l'histoire, enfin, à peu près au même moment, mais à différents endroits dans le monde. Et celle qui domine le monde aujourd'hui, c'est celle qui est née au Moyen-Orient, qui a gagné l'Europe et que l'Europe a imposée au monde par ces différentes étapes de conquête et de colonisation. Et mon propos jusqu'à maintenant, mais c'est bien, ça me permet quand même de l'évoquer, parce que c'est quand même aussi l'introduction du livre, a été d'expliquer comment ce modèle conventionnel est basé sur une vision réductionniste, sur des choix techniques très, très réducteurs, par ailleurs, et extrêmement fragiles, en fait, d'un point de vue agronomique. Et donc, mon propos était, en tant qu'agronome, d'expliquer comment on peut pratiquer une autre agriculture basée justement sur une approche systémique et non plus réductionniste. Donc c'est vraiment au cœur de toute mon histoire agricole et agronomique. Et donc au lieu d'être une agriculture qui fait la guerre au vivant parce qu'elle a besoin de contrôler le vivant, d'arriver à faire une agriculture qui travaille avec le vivant et qui ne cherche plus à artificialiser les conditions de production. En quelques mots, je vous résume un peu tous mes précédents livres. C'est pas mal quand même. Et donc, ça me permet d'arriver au nouveau. C'est-à-dire que, en fait, la demande qui a été portée par Agir pour l'environnement, que je connais bien de l'intérieur par ailleurs, et par les éditions Rue de l'Échiquier, ça a été de travailler plus sur la dimension industrielle. Et je ne sais pas si ça vous a tilté, quand je parle d'agriculture conventionnelle, il y a des gens qui parlent de l'agriculture industrielle. Et c'est à la fois la même chose et pas la même chose. L'agriculture conventionnelle, c'est l'approche agronomique, ce que je viens de vous résumer en trois mots. Un peu plus. L'approche industrielle, la question de l'agriculture industrielle, c'est souvent la même, mais c'est pas la même chose. C'est que cette agriculture qui domine le monde, basée donc sur une approche réductionniste, sur le fait de cultiver une seule plante par parcelle et de faire la guerre aux vivants, elle s'inscrit dans une démarche politique. Pas forcément depuis toujours, mais très nettement depuis le 19e siècle et depuis en fait la révolution industrielle. Et dire que cette agriculture est industrielle, ça veut pas dire que tous les paysans ont des fermes industrielles. Ça veut dire que les structures fondamentales de l'économie agricole au niveau mondial sont industrielles. Et elles ne le sont pas depuis l'après-guerre, comme on le dit souvent en France, elles le sont depuis le 19e siècle, de façon profonde. Pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, c'est que en fait, la révolution industrielle au 18e, mais surtout 19e siècle, ça a consisté à remplacer une partie de la force de travail humaine par les énergies fossiles. Donc toute notre civilisation industrielle, elle est basée sur les énergies fossiles. Hein. C'est pas incident, c'est profond. Et ces énergies fossiles ont permis notamment de développer toute une industrie lourde basée sur l'acier et la fonte. Et d'autre part, de développer les transports à longue distance. On parle rarement de cette question-là qui est absolument fondamentale, qui a été une révolution, mais extrêmement importante, une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité. L'invention du bateau à vapeur et du train. Jusque-là, les villes, les grandes villes, étaient uniquement sur les côtes et à l'embouchure des grands fleuves. Paris était déjà un cas un peu particulier, étant un peu loin de l'embouchure, mais ayant développé un très gros système d'approvisionnement par le bassin parisien et puis par ailleurs par la Normandie. Et au XIXe siècle, on a pu transporter les aliments beaucoup plus loin, ce qui a permis le développement urbain, ce qui a permis le développement donc de l'industrie. Ça veut dire qu'il fallait aussi nourrir ces grands centres urbains, donc le chemin de fer et les bateaux le permettaient, les bateaux à vapeur, puis ensuite, évidemment, tout le reste des moyens de transport qui se sont développés. Et donc, on a pu approvisionner des grandes villes et approvisionner des usines. Et un des cœurs de l'industrie, c'est de centraliser, d'avoir ce qu'on appelle des industries, quoi, des grands centres, des grandes unités de transformation, des grandes unités de distribution. Donc, pour avoir des usines qui vont traiter des très gros volumes, on a besoin d'uniformiser. Donc on a uniformisé l'agriculture par une sélection standardisatrice, par le fait de calibrer les produits, d'avoir des fruits et légumes ils doivent être de tel calibre et pas tel autre, d'avoir du blé qui va être adapté à la transformation industrielle. Donc on a transformé les caractères génétiques, mais en fait, pour atteindre ce qu'on appelle les caractères technologiques du blé, donc l'élasticité, le taux de protéines. Et donc on a tout un tas de lignes de force en fait qui ont poussé l'agriculture à se plier à un objectif industriel. Et les mots clés, et je vous jure, je n'ai pas fait exprès quand je les ai mis dans cet ordre-là un jour, en les alignant, je me suis rendu compte d'un truc, je vais vous dire après. Les mots clés, c'est massification, uniformisation, standardisation, centralisation. Vous prenez les initiales, ça donne Musk. C'est pas fait exprès, mais ça tombe vraiment bien. Alors d'accord, c'est un C, pas un K, mais bon. Parce que vraiment, derrière cette logique industrielle, il y a aussi une logique d'accumulation capitaliste, dont Musk est vraiment l'aboutissement le plus abominable qu'ait produit l'histoire de l'humanité. Enfin, un des pires, il y en a d'autres qui sont aussi tarés que lui, mais aussi dangereux que lui, il n'est pas taré, il est dangereux. Il n'est pas fou, il est fasciste. Il y en a d'autres, il n'est pas le seul, mais en tout cas, il est vraiment l'archétype de ça, de cet aboutissement d'une logique industrielle capitalistique. Et la logique capitaliste est très importante aussi, parce que c'est cette agriculture donc industrielle basée sur l'uniformisation, la standardisation, etc., et la concentration, donc l'agrandissement, le gigantisme, en fait, elle s'est développée aussi parce qu'elle répondait à une envie d'un certain nombre d'acteurs politiques et économiques vers la concentration des moyens de production, vers l'accumulation des moyens de production, qui est la définition fondamentale du capitalisme. On va concentrer les facteurs de production dans des mains de moins en moins nombreuses, en tout cas de plus en plus riches. Et ça, c'est mécanique. Hein. Si vous concentrez de plus en plus de valeur dans les mains de quelques-uns, bah vous créez de plus en plus de pauvres à côté. Et cette dynamique, on la retrouve dans toute l'économie et on la retrouve dans l'agriculture. Et Musk, vraiment, est l'archétype de ça, puisqu'il a effectivement accumulé, les milliardaires ont accumulé les richesses et font tout pour continuer à les accumuler encore plus, au détriment de la plupart des gens qui sont de plus en plus pauvres. Et en agriculture, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais en fait, ce modèle agricole qui a été en partie promu pour mieux nourrir les gens, hein, il y avait une volonté de bonne foi de ceux qui l'ont promu en disant grâce à l'industrialisation, à la centralisation, à la massification dans des grandes usines de transformation, on va pouvoir mieux nourrir les gens. C'était réellement un objectif sincère. Mais cet objectif, en fait, il n'a pas du tout été atteint parce que ce modèle fondamentalement crée de la pauvreté. À partir du moment où vous avez un système qui remplace la main-d'œuvre par des machines et qui accumule les facteurs de production et la valeur dans les mains de peu de personnes, vous créez de la pauvreté. Or, la faim dans le monde, ce n'est pas un problème de production globale. On produit aujourd'hui une fois et demie de quoi nourrir l'humanité actuelle. Et encore, on pourrait produire beaucoup plus, enfin nourrir beaucoup plus de monde, puisqu'on pourrait aussi arrêter de gaspiller, arrêter d'utiliser des surfaces de céréales pour nourrir des animaux industriels, etc. Mais déjà, rien qu'à l'état actuel, on produit de quoi nourrir une fois et demie l'humanité. Donc le problème de la faim dans le monde, ce n'est pas du tout un problème agronomique. C'est un problème économique, c'est un problème de pauvreté. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui souffrent de la faim, même en France, hein, de plus en plus. Et dans tous les pays du monde, il y a des gens qui n'en souffrent pas. Hein. Vous allez au Malawi, qui est a priori le pays le plus pauvre du monde, ou en tout cas un des plus pauvres, ça dépend des années. Au Malawi, il y a des gens qui mangent très bien, c'est les riches. Donc le problème n'est pas du tout un problème agronomique. Et ce modèle agricole, industriel et capitaliste conduit par sa logique d'accumulation et par sa logique de remplacement de la main-d'œuvre par des machines à la pauvreté, à la misère et donc à la faim dans le monde. Et donc c'est un échec complet. Et donc après, ben voilà, une fois qu'on a compris un peu cette dynamique générale, cette dynamique historique, alors je passe sur plein de détails, hein, il y aurait beaucoup à en dire, on pourra discuter après si c'est ce que ça intéresse. Et puis bien sûr, acheter le livre pour avoir tous les détails. L'intérêt, c'est après de pouvoir en sortir. Et c'est ça qui est important, c'est qu'une fois qu'on a compris que l'agriculture qu'on pratique aujourd'hui est le résultat de tout un tas de choix politiques et économiques, on peut à ce moment-là commencer à se dire, et si on en faisait d'autres ? Mais comment en faire d'autres ? Alors, sans trop entrer dans le détail, moi, ce que je trouve, un truc qui m'a frappé en écrivant ce livre, c'est que j'ai trouvé une réponse à un problème qui m'était soulevé depuis plusieurs années. Dans mes conférences, qui sont toujours des conférences débat, donc avec un très long temps de débat, au moins égal au temps de conférence, j'ai très très souvent été interpellé par des gens disant les petites solutions, là, style colibri, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui va sauver le monde. Et puis, c'est tout éparpillé, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de projet. Toutes ces petites solutions, c'est quoi ? C'est avoir une approche systémique d'une agriculture qui travaille avec le vivant plutôt que contre le vivant, c'est-à-dire l'agriculture biologique, qui en est la forme la plus aboutie. Il y a des intermédiaires, mais de fait, c'est la bio qui est la forme la plus aboutie. Avoir des végétaux et des animaux qui vont s'adapter à l'ensemble des territoires au fil de l'eau, qui vont coévoluer avec le climat et les conditions de production, plutôt que d'avoir une sélection centralisée faite pour l'industrie. Ça s'appelle la sélection paysanne. C'est une sélection décentralisée par les paysans. Ça peut être l'atelier paysan qui va travailler à donner l'autonomie technique aux agriculteurs, aux paysans et aux paysannes, à la fois en inventant des outils adaptés à des pratiques agroécologiques, par ailleurs, en trouvant les moyens de les fabriquer soi-même et en diffusant des formations et des documents pour aider à fabriquer soi-même des outils, à réparer soi-même ces outils, donc à être autonome et ne pas dépendre du modèle des acteurs industriels pour avoir des outils de travail performants. Ça va être les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui travaillent à refaire du lien, à recréer du lien entre paysans et consommateurs et consommatrices via des échanges directs. Il y aurait énormément de choses à noter. Ça peut être même simplement passer de l'élevage à l'herbe au lieu d'être de l'élevage industriel. Ça va permettre de valoriser les prairies qui sont des hauts points de biodiversité et d'arrêter de gaspiller des terres pour nourrir des animaux alors qu'elles pourraient nourrir les humains. Les humains nourris à l'herbe, ils ne sont pas en concurrence avec les animaux. Hein. On ne se nourrit pas d'herbe, nous. Et donc, toutes ces pratiques-là, et j'en oublie plein, oui, je pourrais évidemment quand même citer terre de lien sur la logique d'accumulation, c'est-à-dire de lutter contre l'accumulation des terres dans les mains de quelques-uns et permettre l'installation de paysans et de paysannes nombreuses, diversifiées dans les territoires, l'épargne solidaire par les cigales ou autres, enfin, il y a plein de choses. Et très souvent, c'est bien tout ça, mais c'est des petites choses isolées, c'est des petites gouttes d'eau du colibri, c'est pas ça qui va éteindre l'incendie. Alors évidemment, déjà, par exemple de base, il faut se battre pour le grand soir, mais il ne faut pas oublier les petits matins. Et les deux sont complémentaires. Donc oui, il y a des choses qui vont être changées d'en haut. Il faut changer la politique agricole commune. Il faut voter intelligemment. Il faut renverser les gouvernements qui font n'importe quoi. Il faut agir dans les échelons politiques, oui. Il faut se battre pour le grand soir. N'empêche qu'il faut aussi construire tous les jours les petits matins. Et toutes ces initiatives, c'est extrêmement important pour ça. Mais en fait, je me suis rendu compte en écrivant ce livre et en arrivant en essayant de mettre en système justement ces réalités alternatives et le diagnostic, qu'en fait, ce sont exactement les réponses, les contre-pieds à l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, c'est on va massifier, on va concentrer, on va déterritorialiser, parce qu'on a, je suis allé vite, mais une des conséquences de l'industrialisation et des déplacements à longue distance, ça a été de spécialiser les territoires, spécialiser des races animales aussi. Hein. Jusqu'au 19e siècle, il n'y avait pas de vaches à viande ou de vaches à lait. Il y avait des vaches, c'est tout. Elles étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des races mixtes. C'est uniquement à partir du 19e siècle qu'on a sélectionné séparément des races spécialisées dans la viande et des races spécialisées dans le lait. Et on a spécialisé des territoires dans la viande, ce qui était pas facile d'accès, et dans le lait, ce qui était plus facile pour aller collecter le lait régulièrement. Etc. Et donc, toute cette logique aussi de spécialisation, c'est très important. Et bien en fait, tout ce que je viens de vous citer comme solution alternative, enfin, comme les petits colibris, là, les petits matins, prennent tout le contre-pied de la logique industrielle. C'est le contre-pied de la massification, c'est le contre-pied de la centralisation, c'est le contre-pied de l'uniformisation. On va diversifier les productions dans les territoires. On va adapter les variétés au territoire par la sélection paysanne et au climat, bien sûr. On va recréer des liens au niveau des territoires entre les citoyens et les paysans. On va redonner de l'autonomie aux paysans et aux paysannes. Toutes ces logiques-là ont toutes comme point commun de refuser l'accumulation, de refuser la centralisation, l'uniformisation, etc. Et donc, en fait, ce sont des solutions qui sont structurellement opposées à l'industrialisation. Ponctuellement, on peut se dire, oui, c'est des petits trucs isolés, mais en réalité, elles s'inscrivent toutes dans cette logique alternative. Et je vais conclure sur cet aspect-là, qu'un aspect qui est pour moi très important dans les réflexions qu'on peut avoir globalement ici, notamment par rapport à une logique qui est parfois mise en avant de la collapsologie, de l'effondrement. Attention, ce que je vais dire, je ne dis pas que tous les collapsologues disent ça, hein, mais je dis simplement que dans les logiques de collapsologie, il peut y avoir parfois, et je sais aussi dans les logiques de militantisme, un raisonnement un petit peu fataliste de se dire tout va s'effondrer et après tout, tant mieux. Et moi, ma logique, c'est de dire si tout s'effondre, c'est abominable. Parce que si tout s'effondre, si le colosse s'effondre d'un coup, ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, imaginez que demain, il y ait une coupure d'électricité sur tout le territoire, c'est une hécatombe. Hein. Toutes les personnes qui ont besoin d'électricité pour vivre dans les hôpitaux, sous assistance cardiaque, respiratoire, out. Si on n'a plus les moyens d'approvisionner les villes au bout de quelques jours, c'est la cata. Si on n'a pas de moyens d'assainir l'eau, plus d'eau potable, on tient combien de temps ? Et donc, tout ce qui est en train de se passer en ce moment de l'effondrement des services publics et l'effondrement de ce modèle, ça peut être une hécatombe. Et l'importance de construire les petits matins, de construire les petites alternatives ici ou là, c'est qu'au lieu de faire tomber le colosse d'un coup qui va tout écraser, on effrite le colosse par la base pour progressivement construire autre chose à la place. D'une certaine manière, on a des arbres qui vont aller pousser dans les maisons et faire péter les murs et les remplacer. Et je trouve que ce qui est formidable dans ces initiatives qui ont l'air éparpillées, c'est qu'elles construisent vraiment une alternative à la logique de l'agriculture industrielle.
Merci Jacques, formidable. Tu mets la barre très haut avec cet exposé très clair qui a de la profondeur historique aussi. Effectivement, tu ouvres des perspectives. Voilà, donc on va enchaîner, mais je ne suis pas inquiet pour la suite du tout, avec Capucine Dupuis, donc, qui est l'autrice dans cette collection plastique « On arrête tout et on réfléchit » qui a paru en juin. Le livre de Jacques avait paru en février, pardon. Alors, ton livre est paru en août. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'on l'a eu. Oui, c'est ça. Parce qu'on l'a eu en juin. On en fait tellement. Pardon. Effectivement, il vient de paraître en août. Juste pour dire d'ailleurs que c'est une collection qui a ceci de particulier, qu'elle bénéficie d'une double diffusion, à la fois en librairie, évidemment, par les canaux classiques de l'édition, mais aussi par le fait de l'association Agir pour l'environnement, qui en est partenaire grâce à son réseau de militants. Donc Capucine, tu es autrice, tu es conférencière, tu t'es intéressée à énormément de sujets environnementaux. Ces dernières années, tu t'es beaucoup intéressée au plastique. Tu as déjà publié une bande dessinée avec Terreur Graphique qui s'appelle Plastique Tac Tic Tac et qui est édité par nos confrères de Darko, qui est d'ailleurs à votre disposition, je pense à la librairie également. À toi de relever le défi en un quart d'heure, 20 minutes, pour nous faire un petit tour d'horizon de ce que constitue le plastique pour notre société.
Bonjour à tous. Et j'ai effectivement commencé à travailler sur le plastique il y a 5 ans. Et quand j'ai commencé, c'était juste pour faire un petit feuilleton BD de 12 épisodes pour une revue sur Instagram. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des recherches, j'aurais dit, pardon, est-ce qu'on pourrait passer de 12 à 15? Oui. De 15 à 18? Oui. De 18 à 21? Oui. De 21 à 28, etc. À la fin, ils m'ont dit, bah, en fait, tant que tu as des choses à dire, tu continues. Et moi, au début, quand j'ai commencé mes recherches, je ne connaissais pas plus que la moyenne. Je me disais juste, le plastique, ce n'est pas génial, mais voilà. Et c'est vraiment un sujet où, voilà, ça fait 5 ans que j'apprends tous les jours. Et quand je vous dis que j'apprends tous les jours, c'est-à-dire que je lis des articles scientifiques, des revues, des atlas techniques, des plaidoyers d'ONG, des argumentaires d'industriels, je fais des interviews, etc. Il ne se passe pas un jour sans que je ne tombe pas de ma chaise et sans que j'apprenne. Donc, ça pour dire que souvent, on se dit, oui, le plastique, bon, ce n'est pas génial, mais on est conscient d'un petit bout du sommet de la pointe de l'iceberg et pas forcément du côté tentaculaire et insidieux. Et tout ça est fortement lié au fait qu'au début de l'ascension fulgurante de ce matériau, pour rappel, c'est le troisième matériau le plus produit au monde aujourd'hui, son ascension a commencé dans les années 50. Et à cette époque-là, c'était vraiment vendu comme c'était The Age of Plastic. Voilà, la guerre est finie, enter the Age of Plastic. Et on nous vend un monde merveilleux, mais on ne nous vend pas un matériau. En fait, on nous vend une nouvelle vie. Quand je dis « on », c'est les industriels, c'est Dow Chemical, c'est autres pétrochimistes qui convertissent en fait leur savoir-faire de chimie qui a notamment beaucoup servi pendant la guerre et qui se disent en 1945 « quand même, on ne va pas laisser tomber toutes ces compétences, on va les développer, on va les mettre au service du grand public ». Et c'est comme ça qu'ils se convertissent. Vous pouvez aller sur le site de Dow Chemicals, dans la rubrique archives, c'est écrit noir sur blanc, enfin, c'est quand même lunaire. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup amusée. Et donc, début des années 50, on commence à développer ce matériau, non pas en vendant des qualités qui sont certaines, hein, personne ne les nie, de résistance, de longévité, de résistance aux flammes, à l'oxygène, aux champignons, aux bactéries, à la rouille, à tout ce que vous voulez, enfin, la liste est impressionnante. Mais c'est pas vraiment ça qu'on vend en fait. Ce qu'on vend, c'est par exemple l'émancipation de la femme. C'est-à-dire que vous voyez des publicités Tupperware dans les années 60, vous avez une pile de boîtes de toutes les couleurs avec un drapeau américain au sommet. Et le titre de la publicité, c'est « Woman of America, declare your independence ». Ouais. Et en fait, femmes d'Amérique, déclarez votre indépendance. Et quand vous lisez le sous-texte, parce qu'à l'époque, les pubs, c'était genre deux tiers une image dessinée et un tiers, c'était des textes écrits. Donc, ils ont le temps de développer leur pensée. Et vous pouvez lire que, en fait, la femme, la ménagère en gros, au lieu de passer son temps trois fois par jour en cuisine, et ben, grâce aux boîtes Tupperware qui protègent de l'oxygène et donc préservent les aliments plus longtemps, elles passeront juste une fois en cuisine et puis après elles pourront stocker ça pour leur famille. Et du coup, elles vont gagner du temps qu'elles pourront réinjecter dans le temps en famille, le temps avec les copines. Et voilà. Et pareil pour le cellophane, pareil pour plein de différents types de plastique de cette époque-là. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres où on voit un petit bébé de 1 an et quelques qui est mignon à croquer et qui est en train de boire une tasse de lait, avec un lait bien généreux. Enfin, vraiment, vous avez envie de plonger dedans. C'est du styrene, c'est une sorte de plastique de l'époque. Et le texte qui sous-tend cette publicité, c'est ce bébé, en fait, s'il mange dans du styrene aujourd'hui, demain, il va réussir. Et en arrière-plan, vous avez un businessman, costard, mallette, tous les symboles de la réussite sociale et économique. Et voilà. Et les exemples peuvent se décliner à l'infini, ou presque. Et tout ça pour dire qu'en fait, ce matériau est vraiment le synonyme, dès le début, d'une nouvelle vie, plus confortable, plus économique, plus légère. Et effectivement, aujourd'hui, quand parfois j'échange avec des personnes de plus de 80, 90 ans qui se souviennent de ce moment de switch, ils disent, mais moi, notamment des agricultrices avec qui j'ai parlé, au lieu d'avoir le seau qui pèse une tonne, on passe au plastique. Et effectivement, il y a beaucoup d'avantages. Le seul truc, je l'ai réalisé en écoutant Jacques là, et d'ailleurs c'est rigolo, mais le seul truc, c'est qu'en fait, on n'a à aucun moment mis dans la balance les bénéfices et les risques. Et cette croissance en volume des plastiques, qui est vraiment une croissance exponentielle, on est à plus 8,4% par an depuis les années 50, et on est promis un triplement de la production d'ici 2060 par rapport à 2019. Triplement, sachant qu'on ne sait déjà pas gérer aujourd'hui, enfin bref. Et donc, cette croissance en volume s'accompagne d'une démultiplication des types de plastique. Aujourd'hui, on dit toujours, oui, le plastique ceci, le plastique cela. En fait, c'est un peu un abus de langage, c'est les plastiques. C'est pour ça que ce S en couverture n'est pas si anodin. Aujourd'hui, il y a 5400 structures de polymères sur le marché qui se tissent, qui se greffent, qui se juxtaposent à plus de 16 000 additifs et charges. En fait, un plastique, il faut voir que c'est un polymère, donc c'est comme une structure, c'est comme un squelette, si vous voulez, auquel on greffe des additifs. Et ce sont ces additifs qui lui donnent toutes ses propriétés, qui font que c'est coloré ou transparent, que c'est solide ou flexible, etc. Donc, je vous laisse faire le petit calcul. Moi, je suis incapable de le faire. 5300 structures de polymères, 16 000 additifs, ça donne une variété infini en fait du nombre de plastiques. Et encore là, je vous donne des chiffres, mais au fur et à mesure que je parle, c'est en train d'augmenter. Et je viens de réaliser ça en entendant ce que Jacques disait. C'est paradoxal parce que côté agricole, en fait, on va vers une réduction en fait des variétés, et vers le plastique, c'est l'opposé. C'est-à-dire on démultiplie le type de plastique. Et ça a un impact énorme sur la réglementation et sur la possibilité de juguler ou régler ou au moins estimer à peu près les impacts sur la santé. C'est-à-dire que quand vous avez toutes ces structures, un plastique qui peut être mis sur le marché quasiment sans réglementation, contrairement à un médicament, contrairement à un pesticide. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez même pas 2% des plastiques qui sont réglementés au niveau international, malgré quelques conventions, convention de Stockholm, de Bâle, de Londres. Voilà. Donc c'est pas au point de barre, mais pas loin. Et donc forcément, pour jauger des impacts sur la santé, c'est hyper compliqué. Mais quand même, tous les faisceaux convergent. Je vais vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer, mais pour avoir une petite idée, sur ces 16 000 additifs actuellement sur le marché, vous en avez 10 000, donc 60%, dont on ne connaît pas grand-chose ou rien. C'est-à-dire qu'il nous manque des informations, soit sur l'identité, soit sur la fonction, soit sur l'application, soit les trois. Okay ? Ensuite, toujours sur ces 16 000, vous en avez plus de 4 000 qui sont jugés préoccupants par les scientifiques. Ce n'est pas moi qui le dis avec mon petit doigt, le nez au vent. Hein. C'est notamment le CIEL, le Center for International Environmental Law, bref, le Centre pour le droit international, et plein d'autres scientifiques. Et 4200 sur 16 000, ça fait 25%. Sachant qu'en fait, nos vies sont littéralement enveloppées dans du plastique, on est forcément en contact avec elles. Et quand je dis qu'elles sont jugées préoccupantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a une bonne partie qui est cancérogène, une autre qui est perturbateur endocrinien ou les deux. Perturbateur endocrinien, c'est un mot qu'on entend souvent, mais on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Mais c'est une substance, souvent synthétique, mais pas forcément seulement, qui vient, entre guillemets, avec notre organisme et envoyer des signaux comme si c'était nos hormones. Et nos hormones, elles régulent notre croissance, notre développement, notre sommeil, notre capacité à gérer les sucres, notre fertilité, notre sexualité, tout. Enfin, vraiment, les hormones, c'est vital. Et du coup, quand vous avez des perturbateurs endocriniens qui viennent à différents stades de votre vie, que ce soit au niveau du placenta quand il y a une femme enceinte, ou après, notamment au moment des un peu hormonaux dépendants, type la puberté, bah ça fait le bazar, ça fout le bazar. Donc vous avez une liste de pathologies qui est quand même assez stressante, qui vont du diabète, des troubles de l'attention, des faibles QI à des cancers du sein, des cancers de la prostate. Enfin voilà, il y en a une bonne partie qui sont avérées, il y en a d'autres qui sont suspectées, mais ce qui est sûr, c'est que tous les faisceaux convergent, grosso modo. Ce qui est très paradoxal en fait dans les plastiques et ce qui est hyper intéressant, c'est que on baigne tellement dedans qu'on ne les voit pas ou peu. Enfin, disons qu'on trouve ça normal. On trouve ça normal qu'un bébé lèche plein de trucs en plastique. On trouve ça normal d'aller à l'hôpital et de se prendre des tubulures qui viennent certes sauver des vies, mais qui sont chargées en phtalates souvent dedans. On trouve ça normal, en fait, de toucher plus souvent du plastique que de gens qu'on aime. Cette phrase n'est pas de moi, mais de l'Atlas du plastique qui est chez nos voisins, la Fondation Heinrich Böll. On touche plus souvent du plastique que de gens qu'on aime. Au début, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit « Ah, ils sont un peu provoques, c'est pour attirer la attention. » Et puis en fait, vous vous posez deux secondes, vous dites bah non, bah ne serait-ce qu'ici, voilà, on a beau être dans des écuries magnifiques, il y a du plastique partout. Et du coup, inconsciemment, on se dit bah voilà, à la tienne, moi je refuse, je bois à la carafe. du coup, inconsciemment, on est tellement enveloppé qu'on se dit bah c'est une matière neutre. Et pour cause, les industriels entretiennent ça. Les industriels, vous pouvez, je me suis fait la série des sites internet des minéraliers, c'est-à-dire les fabricants d'eau embouteillée. Vous savez, l'eau pure qui vous permet de rajeunir et qui vous fait du bien. Il y a écrit noir sur blanc sur tous. C'est un matériau, le PET, le polyéthylène, donc la fameuse bouteille cristalline ou Evian, est un matériau neutre et inaltérable. Neutre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bah, c'est pas toxique, c'est-à-dire que vous pouvez le lécher et l'avaler, enfin, ça ira bien pour vous. Et inaltérable, ça veut dire qu'il ne change pas, c'est-à-dire que ça ne va pas s'effriter, ça ne va pas s'abîmer, tout va bien. Bon, les deux sont faux, archi faux. Louis, le plastique, va durer des centaines d'années. Il va tous nous enterrer, mais pour autant, il s'use et dans tous les stades de sa vie, c'est-à-dire qu'il se fragmente. Et le truc, c'est que ça se voit pas ou peu, parce qu'il se fragmente en microparticules ou en nanoparticules. Donc, microparticules, c'est moins de 5 mm, un grain de sable. Nanoparticules, personne ici n'est capable de le voir. N'empêche que ils sont là. Et évidemment, plus c'est petit, plus ça slalome facilement dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans nos organismes. Donc aujourd'hui, c'est avéré que le plastique est littéralement partout dans nos corps, dans notre sang, dans notre moelle osseuse, dans les testicules, dans le placenta des femmes enceintes, dans le cerveau, dans les poumons, dans les reins, dans le foie. Voilà. Le seul endroit où il n'y a pas de plastique, c'est là où on n'a pas cherché. Donc, à partir de là, ça devient quand même intéressant de se questionner sur... quels sont les impacts sur la santé ? Mais c'est hyper compliqué parce que, un, il y a une opacité totale des industriels. Je vous parlais du nombre de compositions possibles. Voilà. Non seulement il y a ça, mais en plus, ils ne sont pas tenus d'indiquer leurs compositions. Et quand vous allez questionner des industriels au sein même de la chaîne plasturgique, comme il y a plusieurs stades de fabrication, même eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui a été mis au stade précédent. Donc, vous imaginez bien qu'en bout de chaîne, au moment de l'utilisation et puis de la gestion de la fin de vie, que ce soit du recyclage, de l'incinération ou de la mise en décharge, personne ne sait rien. Quand vous achetez un yaourt, vous avez la composition du yaourt, c'est du lait de ceci, de cela qui vient de tel endroit, mais le pot, vous n'en avez aucune idée. Et donc, il y a une opacité là-dessus, et il y a une opacité aussi, du coup, sur quels sont les impacts pour la santé. Ça, c'est le premier point. Mais il faut ajouter à ça d'autres freins. Et notamment, il y a un, ce qu'on appelle... J'ai encore du temps ou pas ?
7 minutes.
C'est précis. OK. Il y a ce qu'on appelle les NIAS, c'est les substances non intentionnellement ajoutées. Enfin, NIAS, c'est l'acronyme en anglais, mais ça veut dire ça. Donc c'est quoi ? C'est, comme son nom l'indique, des substances qui apparaissent dans le processus de fabrication, même si le fabricant n'a pas voulu les y mettre, mais qui sont le résultat de différents processus chimiques qui ne sont pas contrôlés. Donc c'est des impuretés, et puis c'est des réactions chimiques au sein même de ce que le fabricant est en train de mijoter. Donc vous avez ça, et c'est vraiment, vous avez des milliers et des milliers de NIAS qui se baladent dans chaque processus de fabrication. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est, comme son nom l'indique, vous mettez plein de trucs et puis vous ne savez pas trop ce que ça va donner à la fin. On est, comme je disais tout à l'heure, on est exposé à des dizaines, des centaines, des milliers de sortes de plastiques avec plein d'additifs différents dedans. Et les industriels se défendent en disant nous, on respecte les seuils qui ont été fixés. Donc, on met pas plus de temps de phtalate par microgramme de PVC pour les jouets des enfants de moins de 3 ans dans tel pays. Enfin, voilà, c'est très catégorisé comme ça. OK, supposons, les industriels respectent, je pense, effectivement, la plupart du temps, les seuils. Sauf que, à aucun moment, on s'est demandé si l'enfant qui va lécher son canard de bain avec tel additif et qui ensuite va sucer sa peluche et puis ensuite il va être exposé à son biberon qui est encore dans un autre type de plastique et ensuite, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son organisme ? C'est juste un cocktail ambulant, enfin c'est un shaker ambulant plus exactement. Et personne, à aucun moment, n'étudie ces interactions entre les différentes molécules. Personne, c'est impossible. Je veux dire, on a tous une vie différente. Enfin, on a beau avoir comme point commun d'être réunis sous ces belles écuries et d'avoir tous des phtalates dans l'organisme, eh ben, on a quand même un cocktail qui est singulier et unique. Donc, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d'étudier ces impacts-là sur la santé. Donc, avant de parler de recyclage, des préconisations qui sont, entre guillemets, faciles à mettre en œuvre, c'est l'opposé de ce qui se passe dans l'agriculture, c'est-à-dire aller vers une réduction drastique du nombre de familles d'additifs et de charges qui sont utilisées. Entre autres aussi parce que les lobbies adorent un jeu qui est, vous allez sortir une molécule, par exemple le bisphénol A, et puis au bout d'un moment, ça commence à se voir que ça génère un certain nombre de problèmes pour la santé. Donc, il va y avoir des attaques, mais on va d'abord l'interdire dans les biberons pour enfants en France, ensuite dans les contenants alimentaires pour enfants de moins de 3 ans, puis pour les contenants alimentaires tout court, puis pour les jouets, puis pour ceci, pour cela. Mais cette bataille juridique, en fait, elle va s'étaler sur 15 ans. Enfin, sur le bisphénol A, vous pouvez écrire un livre de 300 pages, c'est vraiment une saga. Qu'est-ce qui se passe ? Au bout des 15 ans, le bisphénol A est assez sévèrement régulé. Il existe encore, mais il est quand même pas mal régulé. Mais en parallèle, vu que c'est un business bien juteux, les industriels ont développé la molécule sœur, bisphénol S, bisphénol Z et autres bisphénols, qui ont à peu près les mêmes propriétés, mais ils s'appellent différemment. Donc, quand vous allez vouloir repartir au front pour légiférer ces molécules sœurs ou cousines, vous allez reperdre 15 ans et pas mal d'énergie. Donc tout ça pour dire que si on réduit le nombre de molécules qui sont utilisables, qui sont réglementées sur le marché, et si on réglemente par famille, c'est-à-dire on dit on s'attaque à tous les bisphénols, c'est tout ou rien, on va gagner beaucoup de temps. Après, il y a plein d'autres solutions que je ne vais pas énumérer ici parce qu'il y en a beaucoup, mais à tous les échelons. Vous pourrez feuilleter le livre. Recyclage. Ah là là, on aime tellement parler recyclage. je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui savent que le recyclage des plastiques ne marche pas, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous l'annonce, le recyclage des plastiques est clairement un moyen de vendre plus de plastique. Pourquoi ? Parce que en imaginant qu'une bouteille jetée au bon endroit dans la poubelle jaune et qui sera récupérée par la bonne usine et retraitée, etc., imaginez que cette bouteille va redevenir une bouteille sans émission de gaz à effet de serre, sans utilisation d'eau et sans consommation d'énergie, quelle qu'elle soit. Une bouteille ne redonne pas une bouteille, c'est faux. parce que déjà la matière se dégrade pendant le processus de recyclage. C'est un peu comme voilà, vous venez taper des chaînes moléculaires, ça tape, ben vous en perdez. C'est comme si vous avez votre collier de perles, vous le secouez, il y a une perle qui s'en va, une deuxième, une troisième. C'est pareil pour le plastique, les plastiques, quels qu'ils soient, quel que soit le type. Donc vous avez de la perte de matière, ce qui signifie quoi ? Que vous êtes obligé, pour garder une qualité à peu près correcte, d'injecter de la matière vierge. Donc la fameuse boucle, comme ça, n'existe pas avec les plastiques. Vous êtes obligé de réinjecter. Et comme en plus on est sur une prévision de plastification de plus en plus importante, pas seulement des pays en développement, mais aussi chez nous, hein, on pense être déjà bien plastifié, mais non, il y a encore de la marge de progrès. L'un plus l'autre, le recyclage en fait n'absorbera jamais, mais jamais, notre production, qu'elle soit stagnante ou qu'elle soit forcément croissante. Les obstacles au recyclage sont techniques, à cause de ce que je viens de dire, parce qu'il y a une dégradation de la matière, mais aussi parce qu'il y a des additifs et que vous ne pouvez pas tout mélanger. Déjà, on ne sait pas quels sont les additifs généralement dans les plastiques. Du coup, on ne sait pas trop dans quelle filière les mettre. Et puis aussi, vous avez cette multiplicité, voire cette infinité de plastique qui fait que vous ne pouvez pas avoir une filière par type de plastique. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez des masses qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, le PET, le polyéthylène, qui est la fameuse bouteille d'eau, entre autres. Bon, bah, ça, on a une bonne masse. Donc, vous allez avoir économiquement un certain intérêt à mettre en place ces usines. Mais tous les autres plastiques, il passe à la trappe, en fait. Troisièmement, vous avez des obstacles aussi techniques à cause de la taille. Par exemple, tout ce qui est moins de 4 cm, moins de 8 cm, selon les territoires, ça passe au travers des mailles du filet. Vous pouvez, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à trier. Il faut juste être conscient qu'en fait, il y a un taux de recyclage global qui est extrêmement faible. Dans le monde, on est à moins de 10% de recyclage à date. En France, on est à 26% de recyclage des emballages. Les emballages ménagers, c'est la star des plastiques recyclables. On est à 26%. Voilà, ça laisse quand même une petite idée de combien se fait incinérer ou enfouir ou laisser en décharge ou exporter sous couvert de « je vais recycler à l'autre bout de la planète », sachant que moi-même, je ne sais pas recycler, mais ce n'est pas grave, j'envoie là-bas parce qu'eux, ils seront... pas faire non plus, mais c'est pas grave, ça sera loin de chez moi. Enfin voilà. Donc vous avez ce recyclage-là qui est une vraie impasse et qui est officiellement, il me reste une minute, 30 secondes, qui est officiellement, comme je disais, un moyen de vendre plus de plastique. Si vous regardez l'excellent documentaire Plastic War, vous avez un des protagonistes à l'origine du recyclage, enfin du pseudo-recyclage du plastique, un Américain, à qui on a dit, écoute, le business va pas très bien dans les années 80 parce que ça se voit qu'on pollue. On va dire que ça se recycle, occupe-t'en. Et donc il a témoigné dans Plastic War, et c'est vraiment, c'est à la fois hyper beau et glaçant. Il explique, voilà, on ne savait pas faire, on savait qu'on allait dans le mur, mais quand même, on a continué à dire que ça allait être possible de recycler, ce qui n'est pas le cas. Et juste pour conclure, le recyclage chimique qui est aujourd'hui vanté par ces industriels comme la relève du recyclage mécanique, parce que le recyclage mécanique a ses insuffisances que j'ai citées brièvement, ce recyclage chimique, c'est encore pire d'un point de vue financier, énergétique et consommation de ressources en général.
Merci pour cet exposé. Très dense et très précis. Ce qui est bien, c'est que tu es finalement resté assez à distance des solutions, mais tu les développes tellement dans ton livre que vous allez être obligé évidemment de compléter cet exposé par la lecture du livre de Capucine. Je passe la parole donc à Samuel Sauvage, qui est le cofondateur de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Tu es aujourd'hui directeur économie circulaire chez Auxilia Conseil. Tu fais beaucoup de choses. Tu es aussi conseiller auprès de la Commission européenne sur certains sujets. Voilà. Et tu publies donc ce mois-ci, début octobre plus exactement, sur consommation, on arrête tout et on réfléchit. Et en matière de plastique, la surconsommation est une réalité aussi extrêmement forte. Donc, je te laisse prendre la suite.
Non, on ne consomme pas de plastique, hein, ça va. Mais je suis très heureux de parler de ce livre qui vient de sortir, parce que c'était la semaine dernière, ici, puisque j'ai grandi à Cluny, moi. Donc, C'est émouvant. Ce livre sur la surconsommation, il vient en effet d'un combat que j'ai depuis 10 ans sur l'association HOP, donc Halte à l'obsolescence programmée, où on travaille plutôt sur comment est-ce qu'on nous pousse à consommer davantage à travers l'obsolescence programmée. Il y a d'ailleurs un angle derrière qui est celui du producteur qui manipule le consommateur et que je garde dans ce livre. Mais c'est vrai que j'ai voulu élargir le sujet parce qu'en fait, ce n'est pas la seule manière de pousser à surconsommer que de faire en sorte que les objets durent moins longtemps qu'ils ne le pourraient. Parce que l'obsolescence programmée, c'est en effet un phénomène majeur. Toutes les questions techniques, logicielles, les phénomènes de mode sont fondamentaux pour renouveler nos achats. Mais je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres que j'ai cités sous la forme du bémol. Je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle. J'ai quelques métaphores musicales. Le bémol, c'est d'ailleurs le B de créer des nouveaux besoins, des besoins artificiels. Donc on a ce côté où le consommateur il est poussé à avoir des nouveaux types de besoins par une publicité de plus en plus un matraquage qui, selon les estimations, on a plus de 500 messages publicitaires ou plusieurs milliers de messages publicitaires par jour sans s'en rendre compte, avec des sommes en jeu énormes qui ont évidemment un impact sur nos consommations, sinon ces sommes ne seraient pas investies. Donc il y a ce B des nouveaux besoins, il y a le fait que les marchés sont étendus, donc l'extension des marchés, ce qu'on va tester sur une catégorie de population, on va la mettre sur une autre catégorie, dans un autre pays. Il y a une société de plus en plus marchande, le M de fait que ce qui avant était un service gratuit, par exemple, faire du stop, va devenir un service marchand. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que le marché gagne de la place et donc de plus en plus de choses à vendre. Le O de l'obsolescence programmée. Et puis, dans le bémol, il y a aussi le L du low cost, avec le fait que comme les produits sont tellement pas chers, eh bien, c'est difficile d'une part de résister, d'autre part c'est difficile d'avoir envie de réparer quand le nouveau produit coûte si peu cher, donc c'est une sorte de concurrence déloyale vis-à-vis de la réparation. Et donc ces manières de pousser à surconsommer, ce n'est pas les mêmes que celles d'il y a 50 ans. En 70 par exemple, Jean Baudrillard, il parlait déjà de la société de consommation. Donc vous me direz, est-ce que ça a fondamentalement changé ? Eh bien oui, je pense. Parce que maintenant la consommation elle est beaucoup plus accessible, les produits sont beaucoup moins chers, elle est beaucoup plus accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7, où que vous soyez, sur votre téléphone, en un clic ou deux. Et en ligne c'est pas la même chose, il y a tellement de manières de vous manipuler, de dire attention il n'y a plus qu'un produit disponible, attention voici la petite fenêtre, cliquez dessus et puis hop vous avez un truc dans votre panier sans vous en être rendu compte, vous avez cliqué pour le fait d'acheter en un clic et puis ça fait que vous avez des achats compulsifs, etc. Donc internet c'est loin d'être neutre. Et donc, cette surconsommation aussi, elle remplit un vide. Il n'y a pas grand-chose aussi de grande idéologie qui rassemble la société. Et donc, finalement, on a cette société de consommation de 70, elle est devenue une société de surconsommation qui a des impacts. Et donc, ça se traduit sur l'agriculture, sur le plastique, et sur tous les objets qu'on consomme, sans s'en rendre compte. Une maison moyenne, en 1900, avait à peu près 300 objets. Une maison moyenne aujourd'hui, elle en a autour de 10 000. Et donc, on a ce décuplement de nos achats. On a une centaine d'appareils électriques et électroniques. On a, on achète une quarantaine de vêtements ou de pièces textiles par an. À chaque fois, nous, on pense qu'on fait bien. Hein. Et d'ailleurs, 70% des Français disent « je consomme moins que la moyenne ». Donc, moi aussi, et vous aussi. Mais en fait, on se trompe tous les jours. Et je commence le livre en disant « c'est une utopie de croire que nous, en tant que consommateurs, on peut lutter à notre échelle. » Puisque moi-même, j'ai écrit des bouquins sur les sujets des smartphones, par exemple. Et mon dernier achat de smartphone, je me suis complètement trompé, même si j'y ai passé 5 heures d'analyse. Et donc, si quelqu'un qui s'y connaît un petit peu peut se tromper comme ça en y passant du temps, c'est qu'en fait, on se trompe vraiment tous les jours, en permanence, parce qu'il y a 4 grands obstacles à la consommation responsable au niveau individuel. C'est donc d'une part le prix, parce que souvent un produit éco-conçu, etc., va se retrouver être plus cher. Malheureusement, produits bio sont souvent plus chers aussi que les produits conventionnels. Il y a le temps d'aller se renseigner, d'aller à tel magasin, puis tel autre, etc. Il y a ce que va faire votre entourage. On n'est pas des êtres qui vivons isolés. Donc, selon ce que pense notre famille, nos amis, on va trouver ça cool, on va trouver ça nul. Et donc, on est vachement influencé. Et puis, il y a la compréhension, puisqu'il y a des centaines de labels, des produits, des emballages verts qui vous font croire que c'est bien, des labels qui, en fait, ne sont pas très intéressants. Mais comment on peut savoir, en tant que consommateur, ce qui est mieux? Est-ce qu'il vaut mieux acheter, par exemple, si on parle de produits agricoles, hein, même si je ne suis pas spécialiste, est-ce que c'est mieux d'avoir du vrac ou du bio, mais qui est emballé dans du plastique, ou qui est local ou pas local? Enfin, on s'y perd, on a des dilemmes en permanence et on se trompe en permanence. Alors, ça fait le lien avec ce que tu disais de par quoi, par quel bout on essaye d'agir. Parce que moi aussi, souvent, j'ai fait partie de ceux qui ont dit le combat, il est structurel, il n'est pas individuel. Je continue de le dire parce que je sais qu'il y a ces obstacles. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle, en effet, ces petits matins. Moi, je parle aussi de... Il ne faut pas dire, il y a des petites rues, il y a des grands boulevards dans ce chemin. C'est sûr que le grand boulevard va être politique, va être notre combat collectif, mais il y a aussi des petites rues à prendre parce qu'il y a des promesses. Il y a des promesses derrière notre consommation. C'est quand même que quand on consomme un peu mieux, on a moins d'impact, qu'on va montrer un certain exemple, une cohérence, on va avoir du sens dans notre consommation. On va parfois aussi faire des économies. Contrairement à ce que je disais d'un produit éco-conçu qui est plus cher qu'un autre, il y a quand même aussi le fait de quand on questionne vraiment son besoin, on renonce à un certain nombre d'achats. Quand on achète d'occasion, on achète beaucoup moins cher. Quand on répare son objet, ça peut aussi être moins cher que de racheter un truc, etc. Donc, il peut y avoir un certain nombre de bénéfices. Et donc, il faut à la fois avoir ce combat individuel pour une consommation un petit peu plus éclairée, mais sans penser qu'elle peut être parfaite. Et donc, en admettant qu'on va se tromper tout le temps, continuer d'être curieux. Donc, je donne des conseils un petit peu dans le livre sur voilà, comment on peut essayer de s'améliorer sans se mettre une pression exagérée, puisque ce combat collectif, après, pour les musiciens, il va se traduire par le dièse. Donc, le bémol, il met un ton en dessous, là, à la note. Et le dièse va essayer de élever le débat, si on veut, avec cinq lettres. Ça commence par désarmer, le D, désarmer la publicité. Donc là, c'est un grand combat à mener. Et le mot désarmer, il n'est pas innocent, hein, parce que c'est quand même... voilà, une arme qui est plutôt contre nous, qui est contre notre liberté de réception de cette publicité. Et il est dans le fait, dans le « i », d'impulser un autre imaginaire. Aujourd'hui, on a cet imaginaire consumériste qui est partout dans notre société, qui est érigé en modèle. Et donc, cet autre imaginaire, moi, je pense qu'il est potentiellement majoritaire dans la société. La plupart des Français, on leur demande qu'est-ce qu'il faut faire sur la consommation. Et ils sont une grande majorité à dire oui, il faut consommer moins et mieux. On se rend compte. Et on se rend compte que ce n'est pas ça qui nous fait heureux, qui nous rend heureux. À un certain niveau de richesse, notre niveau de bien-être, il ne s'améliore plus avec plus de consommation. Donc, on a cette majorité pour... moins consommer, mieux consommer, avoir plus de temps. Plus... Et cet imaginaire-là, bon, il n'y a pas une recette pour le propulser, mais il faut y travailler. Donc ça, c'est le D, le I. Le E, c'est encadrer la production. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que même si le titre, c'est surconsommation, d'ailleurs, parfois, j'ai hésité, je me dis, ah, il faudrait qu'il s'appelle surproduction, il faudrait qu'il s'appelle pouvoir d'achat. Il y a eu plein de titres dans nos têtes, mais c'est la surconsommation, mais qui résulte d'une surproduction. Et cette surproduction, il faut l'encadrer. Donc. Et souvent, ça n'a pas tellement été écrit ou proposé dans les débats politiques. C'est comment est-ce qu'on fait pour que tous ces produits, et y compris plastique, ne rentrent pas sur le marché. Qu'on n'ait pas ce choix en tant que consommateur qui est infini, entre autant de références possibles. Je ne sais plus, il y en a combien. Ben, par exemple, si vous voulez acheter une télé, il y a plusieurs milliers de télés possibles. Et donc, c'est quasiment impossible de se rendre compte finalement du meilleur choix pour vous. Donc tous les produits qui ne sont pas durables, pas réparables, ne doivent plus être mis en vente dans notre économie européenne. Maintenant, enfin, notre association HOP, elle a travaillé pour qu'il y ait un indice de réparabilité. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les magasins. Bon, un indice de durabilité qui commence à se mettre en place aussi sur les smartphones ou les ordinateurs. Bon, très bien. C'est bien d'informer. C'est bien qu'il y ait des sortes de bonus pour que ça soit, les bons soient moins chers. Mais il faut aussi que les mauvais, ceux qui ont par exemple moins de 5 sur 10, ne puissent pas être vendus. Donc c'est des normes. C'est aussi ce que disait Cécile Duflo hier, de dire à un moment, la contrainte fonctionne, la ceinture de sécurité dans la voiture, c'est ça qui va vous obliger. À un moment, il faut obliger les gens pour les protéger. Et donc, cet encadrement de la production, il est possible. On voit bien Trump qui met des tarifs douaniers un peu comme il veut, un peu partout. Eh bien, on pourrait aussi imaginer mettre ce type de tarifs douaniers sur tous les produits textiles qui viennent d'Asie en général et qui cessent de nous inonder et de créer tous les dommages environnementaux. Je ne suis pas revenu dessus et je pense que vous êtes au courant, mais c'est vrai que c'est des dommages évidemment climatiques. De ressources qui sont de plus en plus rares, c'est des déchets, c'est de la biodiversité en moins, enfin, toute cette surconsommation se retrouve à un moment quelque part. Donc, cet encadrement de la production, il est central, et je ne dis pas que j'ai pu esquisser la solution parfaite, parce que c'est un livre aussi petit, hein, c'est une grosse centaine de pages, mais quand même, il y a quand même pas mal de choses à faire en termes de régulation du marché qui sont possibles au niveau européen et au niveau français, selon les types de mesures à prendre pour encadrer cette production. C'est les garanties aussi. Vous savez que nos produits ils ont une garantie de 2 ans. Eh bien, il faut que nos produits, vos smartphones, nos voitures, nos frigos, arrivent à avoir des garanties de 5 ans, de 10 ans. Et donc, de cette manière, les producteurs vont être obligés de s'y conformer. Et puis après, dans le dièse, il y a aussi le S de soutenir. Parce qu'on a dans notre économie tellement d'initiatives qui sont hyper intéressantes. Et par exemple, je parlais de la réparation. Réparation très, très compliquée. Maintenant, on a un bonus réparation qui essaie de vous inciter un petit peu financièrement. Mais clairement, il faut tout faire en sorte pour que le consommateur fasse les bons choix et donc que ce soit beaucoup moins cher d'avoir un produit bio, avoir un produit de réparer, d'occasion, etc. Donc tout ce soutien à toutes ces associations, à toute l'économie sociale et solidaire, il doit être organisé par l'État. Et puis, tout ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et donc, il y a, pour finir, le E d'embarquer tous les acteurs et donc de fixer un cap parce qu'on sait que ça va être des transitions potentiellement longues. Il faut former des gens. Il faut donc planifier cette économie-là. Donc, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que c'est pareil, en écrivant le livre, je voyais un petit peu toutes ces bribes de solutions, ça a été vraiment intéressant d'arriver à les poser et puis de montrer que le dièse pouvait répondre au bémol. C'est une manière aussi que ça reste dans nos têtes et je pense qu'il faut qu'on en fasse un gros sujet politique des prochaines années. Et si j'ai encore quelques minutes, un autre grand sujet politique qui se retrouve partout dans le livre, c'est la première préoccupation des Français. C'est quoi ? La première préoccupation des Français, selon les enquêtes, c'est le pouvoir d'achat. Très bien. Et donc, pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut donc pouvoir acheter plus ? Oui, quand même. Est-ce que c'est souhaitable d'acheter plus alors que déjà on achète 4 fois plus qu'en 1960 et que notre empreinte écologique elle est de 3 planètes alors qu'on n'en a qu'une ? Enfin, on voit bien qu'il y a une contradiction dans le pouvoir d'achat. Il y a Paul Ariès qui dit que c'est un mot poison. Il y en a François Helbrun dit que c'est un mythe. Et un mythe, pourquoi ? Parce que c'est une construction en fait, mythologique qui fait que c'est conforme aux intérêts économiques en place de dire il faut donner la chance aux gens de pouvoir consommer plus. Et donc, la gauche est contente parce qu'il faut donner plus d'argent à tout le monde et donc c'est juste socialement. Et la droite est contente parce que ça fera plus de croissance, si on schématise. Mais au final, cette construction-là, elle a été imposée. Parce qu'elle s'est retrouvée partout dans les pubs, elle s'est retrouvée partout dans les discours politiques. Et donc, à la fin, les gens, oui, bah, j'aimerais bien avoir plus de pouvoir d'achat. Mais il faut arriver à en sortir par le haut de cette histoire du pouvoir d'achat. Ce n'est pas évident non plus. Je ne dis pas qu'il y a quand même une partie de la population française qui clairement a besoin d'avoir plus d'argent, augmenter les minima sociaux, le SMIC, etc. Mais pour la classe moyenne, je pense qu'il y a des meilleures manières de répondre à ça, et notamment arriver à dépenser moins parce qu'on aura notre logement isolé, dépenser moins parce qu'on pourra prendre le vélo au lieu de la voiture, dépenser moins parce qu'on peut acheter d'occasion au lieu neuf, parce qu'on peut réparer pas cher, parce qu'un produit dure longtemps et je ne suis pas obligé de le racheter un an plus tard. Donc toutes ces manières de répondre au pouvoir d'achat, elles sont beaucoup plus pertinentes que juste augmenter des salaires et faire en sorte qu'on consomme toujours plus. Finalement, c'est un pouvoir d'achat qui est pour moi une sorte de vouloir d'achat, c'est-à-dire on a cette quête illimitée. Et comme le désir est illimité, et ben forcément, le pouvoir d'achat il peut être qu'en crise, parce qu'on a un désir qui ne peut pas s'arrêter, et une addiction, je parle aussi beaucoup d'addiction à la consommation, et comme beaucoup de substances, voilà, il y a ce plaisir qui arrive, qu'on ne nie pas, et moi aussi je consomme et je suis content de consommer des trucs, et pourtant bah, c'est un vide ensuite qui s'installe, il y a quand même un plaisir moins durable que d'avoir bien essayé de faire le bien à travers notre consommation. Donc derrière tout ce cheminement là autour des impacts de la surconsommation, de comment est-ce qu'on est poussé à surconsommer tous, et en même temps comment on peut agir individuellement, collectivement, bah, y a aussi cette question de est-ce que le pouvoir d'achat doit être déconstruit, doit être redéfini, et comment on peut en trouver des réponses politiques qui peuvent rassembler, parce que c'est vrai qu'on parfois peut-être on donne l'impression d'avoir des discours négatifs, mais je pense qu'on a clairement une possibilité d'avoir, comme je disais, une majorité derrière ce type de projet. Personne ne veut consommer plus pour consommer plus. Et qu'en fait, la consommation, eh bien, elle commence à montrer des signes de faiblesse. Et qu'il faut s'appuyer dessus pour montrer qu'il y a qu'il y a un autre mode de vie souhaitable derrière la lutte contre la surconsommation. Donc on va pouvoir continuer les débats autour de ces solutions, mais c'est loin d'être un combat perdu, parce que c'est un combat qui a été très peu théorisé, très peu mis à l'agenda politique, et donc il faut qu'on le fasse vivre, et je pense que aussi les rencontres comme aujourd'hui peuvent aider à progresser.
Je rappelle qu'un livre, c'est l'anti-surconsommation par définition, puisque vous pouvez prêter un livre, vous pouvez l'offrir, vous pouvez le faire circuler. Donc, n'hésitez pas. Peut-être qu'on a déjà vu qu'il y avait beaucoup d'intrications entre vos trois sujets. Vous avez évoqué vous-même des liens. Est-ce que vous souhaitez, à tour de rôle, peut-être qu'on peut reprendre dans l'ordre, réagir à ce qui a été dit et compléter votre première intervention ? Est-ce que Jacques, est-ce que tu as été inspiré par ce qu'ont dit Capucine et Samuel ?
Ouais. Alors, je n'ai pas forcément complété sur des sujets où je ne suis pas compétent, mais il y a des éléments qui me font penser à confronter des réflexions. Et sur la question du pouvoir d'achat, je vais partir de là. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre pouvoir d'achat et quantité achetée. Parce que justement, comme tu l'as dit toi-même, un des enjeux, une des manières de lutter contre la surconsommation, c'est d'inciter, enfin de mettre fin aux biais qui poussent à consommer des produits obsolètes, enfin à obsolescence courte, et plutôt d'acheter des produits qui vont être à plus longue durée de vie. On peut aussi dire acheter des produits qui ne seront pas faits avec du plastique. Et en fait, ces produits-là coûtent plus cher. Donc augmenter le pouvoir d'achat, ça peut être, ça force pas, ça amène pas. Enfin, je pense que chez beaucoup de gens, la revendication du pouvoir d'achat n'est pas forcément dans l'imaginaire une idée de vouloir consommer plus. Ça peut être de vouloir consommer mieux. Et je pense que, enfin, typiquement, si on prend l'alimentation, on sait qu'il y a une très grande majorité de gens en France qui aimeraient manger bio et qui estiment qu'ils n'en ont pas les moyens par rapport aux arbitrages qu'ils sont obligés de faire tous les jours dans leur choix de consommation divers. Et si on leur donne les moyens d'acheter des produits bio, alors on peut aussi poser la question à la base, hein, ça rejoint aussi des éléments que tu évoquais, c'est évident que la bio, l'agriculture bio, normalement, ne devrait pas coûter plus cher que le conventionnel. Ça devrait être l'inverse. Si on intégrait dans l'agriculture les coûts des pollutions, le coût du traitement de l'eau, le coût de la santé, le coût, et encore, si on essayait de calculer de façon monétaire les coûts de l'effondrement de la biodiversité, du climat, enfin, vous voyez bien que, en réalité, consommer bio, enfin, produire bio, même pour un paysan, en réalité, même aujourd'hui, en économétrie de base, avec ce qu'on sait mesurer, donc je ne compte même pas le climat et la biodiversité, produire bio coûte moins cher, coûte moins cher que produire conventionnel. La raison pour laquelle les bio sont obligés de vendre plus cher, c'est qu'ils doivent compenser les biais des distorsions de concurrence liées aux aides de la politique agricole commune, aux subventions au matériel, et comme par hasard, on subventionne le matériel neuf, pas le matériel d'occasion, enfin, tout un tas d'aides diverses, directes et indirectes, qui font que le prix de vente doit compenser ce manque sur un certain nombre de soutiens. Donc déjà, à la base, bon, ça ne devrait pas être plus cher. Mais même en état actuel des choses où c'est plus cher, ben, plus de pouvoir d'achat, pour beaucoup de gens, ça peut vouloir dire acheter bio plutôt qu'acheter conventionnel. Et ça, ce n'est pas de la surconsommation. Parce que remplacer un meilleur pouvoir d'achat pour acheter bio, ça fera plutôt moins de consommation. Parce qu'on mangera autant d'aliments, mais derrière, c'est des produits qui ont utilisé moins de pesticides, enfin, pas de pesticides, moins de surmécanisation, normalement, moins de transport à longue distance si c'est une bio qui est bien foutue, etc. Donc, moins d'emballage, moins de plastique. Donc, finalement, pour moi, je pense que la notion du pouvoir d'achat, on devrait la décorréler des questions de volume, en fait. Puis sinon, peut-être une remarque, juste en passant, sur, parce que c'est intéressant que tu aies pointé le côté action individuelle, action collective. Pour moi, alors, on a effectivement, en tant que consommateur, des rôles à jouer, hein, c'est clair. Mais de fait, je pense qu'en tant que, quand on pense l'avenir et quand on pense ensemble les solutions, il faut essayer au maximum, et je ne dis pas ça pour dire que tu le fais, hein, c'est au contraire, parce que tu soulignes qu'il faut faire attention à ça, donc j'abonde dans le même sens, au maximum aller vers ce qui est de l'ordre de l'action collective, l'action au sens, la politique au bon sens du terme, c'est-à-dire l'action sociale et collective, et surtout pas la culpabilisation individuelle. Ce n'est pas aux individus de réparer les conneries du capitalisme industriel, c'est bien à la collectivité, notamment aux politiques, mais, et à défaut de politique, à l'organisation des AMAP, de Terre de Liens, etc. Mais qu'on soit à l'échelle politique globale ou qu'on soit à l'échelle de petites actions locales, c'est du collectif. On vous culpabilise et il faut que vous changiez votre acte, quoi. Même si, bien sûr, l'acte de consommation compte aussi. Hein, faut pas l'oublier.
Capucine, tu veux ajouter quelque
chose ? Ouais, il y a deux résonances, mais puisqu'on parle cash, puisqu'on parle argent, je veux dire, il y a un parallèle aussi à ce niveau-là entre le plastique et la société de consommation en général ou l'agriculture. Souvent on se dit pourquoi le plastique est aussi omniprésent, c'est parce qu'il est pas cher, outre ses autres qualités bien sûr, mais il est pas cher. Ça c'est quand même voilà. En fait, c'est pas qu'il est pas cher, c'est qu'il coûte inacceptablement cher. Il suffit de regarder les coûts pour l'environnement et pour la santé. Environnement, par exemple, en dépollution des fleuves, des eaux, des embouchures dans les ports, etc. C'est des milliards, en fait, à la fois en impact, par exemple, sur la pêche. Tout ça, c'est quantifié. Les stocks de poissons étant impactés dans leur fertilité, dans leur reproduction, voilà, vous avez moins de stocks. Donc ça, c'est valorisé financièrement. Le tourisme, évidemment, personne n'a envie d'aller dans des endroits jonchés de déchets plastiques. Du coup, ça a un coût, c'est des dépenses. Voilà. Vous avez ce coût-là, et puis vous avez le coût pour la santé. Il y a des études qui ont été faites il y a quelques mois qui sont hyper intéressantes. Ils ont pris juste trois substances qui sont utilisées dans les plastiques de façon très courante, dont les retardateurs de flamme. Vous savez, ces trucs qui évitent que ça flambe tout de suite. que vous avez absolument partout, dans vos coques de téléphone, dans votre revêtement de sofa, enfin de canapé, voilà, et autres. Retardateur de flamme, bisphénol et un troisième qui m'échappe pour l'instant. Et juste aux États-Unis, ça coûte, en impact sur la santé notamment, ça coûte plus de 600 milliards de dollars par an. Parce que par exemple, quand vous avez quelqu'un qui, à l'état prénatal, va être exposé à des phtalates ou autres perturbateurs endocriniens, il va avoir un trouble de l'attention, un faible QI ou quelque chose comme ça, qui va faire que, d'un point de vue extrêmement cynique, il est moins productif pour la société. Ou vous allez avoir une femme qui va avoir un cancer du sein, bon, bah, elle va s'absenter entre guillemets pendant un an, deux ans, trois ans, le temps de... on espère guérir, ça a un coût pour la santé. Et ben, quand vous prenez juste ces trois substances, juste aux États-Unis, juste pour un an, c'est plus de 600 milliards. Ça, je pense qu'on a mieux à faire avec cet argent. Donc c'est voilà, même problématique que voilà, externalité négative. Et aussi, je voulais rebondir sur un truc que Samuel disait sur voilà, est-ce que je suis capable de renoncer à tel acte de consommation, enfin, voilà. Moi, je me suis beaucoup questionnée sur les gens qui disent oui, mais bon, le plastique c'est pratique et tout. J'ai pas envie d'y renoncer, de renoncer à mon confort, à la praticité, au gain de temps. Et ben en fait, je me dis, il faut juste regarder la balance au lieu de regarder qu'est-ce que ça m'apporte, mais aussi regarder qu'est-ce que le changement m'apporte. Donc j'ai inventé un nouveau nom que je vous propose d'utiliser s'il vous parle. Au lieu de parler de renoncer à, c'est rehuisser à. C'est je dis pas non à, je dis oui à. Donc je ne dis pas non à acheter une bouteille d'eau ou une protection hygiénique en plastique jetable ou voilà, les exemples sont nombreux, mais je dis oui à préserver ma fertilité, préserver bah, juste ma bonne santé, éviter les cancers, à ne pas péter le dos aussi parce que je vais acheter mon pack d'eau tous les jours et que mine de rien, ça pèse. Je dis oui à préserver ceci, ceci, cela. Donc ça rend... Ça, tout à l'heure, tu disais, oui, tu n'as pas parlé de solution, mais voilà, slalomer entre les gouttes de plastique, ça rend vraiment joyeux, léger. C'est un jeu, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est libérateur.
Et c'est vrai que dans ces promesses, il y a le côté voilà avoir plus de sens dans ce qu'on consomme et ce que je mentionnais sur le fait qu'on peut avoir aussi des économies derrière ces éco-gestes, c'est quand même intéressant à rappeler parce qu'on a souvent tendance à catégoriser la consommation bobo écolo comme favorisée, mais le fait d'arriver à avoir peu de besoins globalement permet largement de faire des économies donc et un certain nombre de comportements comme ça. Ce qui est intéressant à voir, je pense, c'est qu'il y a deux catégories de cas. Il y a le fait d'avoir toutes ces éco-gestes qui vont être plutôt faciles à adopter quand on a peu d'argent et qui doivent être promus, par exemple l'achat d'occasion aujourd'hui, ben, c'est pas si simple d'avoir des magasins d'occasion. Il y en a, bon, il y en a un à Cluny, mais il y en a pas 36 000. C'est pas toujours facile d'accès. Donc là, il y a une grande possibilité pour les pouvoirs publics de favoriser tous ces lieux. Et puis il y a tous les cas où consommer un produit qualitatif, durable, va coûter plus cher. Et là, bah plutôt que juste d'essayer de dire il faut plus de pouvoir d'achat, je conteste. Je pense qu'il faut prendre le bout, la proposition d'avoir ces produits moins chers avec des bonus, malus, qui vont facilement orienter et donc pas simplement augmenter les salaires de tout le monde, mais plutôt permettre de faire le meilleur choix quand on se retrouve en magasin. Une autre manière de répondre aussi à ce problème du vouloir d'achat, je mentionne la sécurité sociale de l'alimentation pour faire écho à l'agriculture, c'est dire essayer d'avoir un pouvoir d'achat ciblé. Quand c'est une proposition, vous savez, où sur une sorte de carte vitale, vous aurez une centaine, 200 euros par mois, qui servira que à acheter des produits bio, alimentaires, des légumes, des fruits. Et donc, c'est vrai qu'avoir ce type d'instruments qui vont vous donner du pouvoir d'achat, mais qui sont utilisables que vers certains types de consommation, c'est aussi une bonne manière de favoriser ces comportements et en même temps de permettre aux gens de vivre dignement. Donc, il y a d'autres manières de répondre au pouvoir d'achat, en effet, en favorisant cet achat qualitatif et en même temps en répondant aux besoins sociaux. Et puis un dernier truc qui était intéressant, je pense, c'est que sur ces fameux éco-gestes, il y a vraiment des petits gestes et quand même des un peu plus grands gestes. Donc il faut arriver à se rendre compte quand même, et notamment tous ceux qui vont être collectifs, de dire quelle est mon électricité, quelle est ma banque. Enfin, il y a des estimations qui disent que, alors je n'ai pas été vérifier tous les calculs, mais qu'avoir 15 000 euros dans une banque classique, disons BNP, c'est autant d'impact carbone que de manger deux burgers par jour. Donc on a vraiment ce que fait notre argent sans qu'on s'en rende compte, c'est un gros impact. En effet, éteindre la lumière derrière nous, supprimer nos mails, non. Donc, il faut arriver à se rendre compte un peu des ordres de grandeur et que comme on ne va pas avoir le temps de faire tous les éco-gestes, enfin, moi, je pense que je ne l'ai pas et vous ne l'avez sûrement pas non plus, eh bien, essayer de s'informer pour dire, bon, il y a quand même quelques grands gestes que je peux faire. Et bon, sans doute les vôtres et les miens et ceux de Capucine et de Jacques ne vont pas être exactement les mêmes. Je vais être peut-être un peu moins drastique sur le plastique, même si tu m'as beaucoup convaincu. Et donc, chacun a ses préférences et ses combats. Mais et pour ensuite eh bien essayer de commencer à faire ces quelques choix qui sont importants pour nous et puis de progresser progressivement et en effet militer, voter, etc. pour un combat un peu plus collectif.
Merci beaucoup pour cette triple intervention. Je vous propose de passer le micro à la salle. J'imagine que vous avez plein de questions. On a brassé énormément de sujets aussi. C'était très dense. Merci à vous trois. Et on continue donc avec les questions de la salle.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai juste une remarque à faire sur le pouvoir d'achat. Moi, je trouve que c'est un mot qu'on devrait strictement bannir. Il y a toute une lutte, tout un combat culturel à mener, parce que le problème, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est le besoin. Il faudrait remplacer ça par la capacité de répondre à ses besoins. Après, il y a toute une réflexion sur les besoins, etc. Voilà. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, sur la cohérence ou l'incohérence, on est tous à moitié, on essaie de faire au mieux. Moi, je rigole toujours quand je vois autour de moi, dans les milieux militants, 70% des gens se battent contre les GAFAM, n'est-ce pas ? C'est l'ennemi, etc. Ils ont tous des boîtes Gmail. Mais quand même, il est difficile de s'en débarrasser. Et moi, je n'ai plus de boîte Gmail, mais j'ai toujours un compte Google et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et je voulais encore dire autre chose, je ne sais plus. Ah oui, dans les petites actions toutes bêtes, moi j'ai pris l'habitude, déjà, je boycotte tous les produits que je peux boycotter pour lesquels je vois de la pub. S'ils ont besoin de faire de la pub, c'est que la qualité du produit ne suffit pas. Donc je ne vais pas l'acheter. Et ensuite, je m'amuse depuis quelque temps quand je vois des gens qui ont des beaux t-shirts ou des vestes avec une grosse pub dessus. Je vais les voir et je leur dis « Ah, on vous a payé combien pour porter ça ?» Les gens me regardent en disant « Mais non, je l'ai acheté. » Je dis « Bah alors, t'es bien bête parce que tu achètes un produit et tu fais de la pub pour le... alors qu'eux, ils dépensent des milliards pour faire de la pub pour le même produit. » quoi. Donc, ce sont des petites actions que chacun peut faire et qu'il faut mutualiser. Il faut en discuter avec les autres pour que ça devienne des actions collectives.
Merci. C'était plus donc une remarque globale, voire triple remarque, une question. Donc on peut passer la parole à votre voisin. Merci,
oui, monsieur. Parce que je crois que ça va simplement compléter ce que tu viens de dire. Je ne veux pas être désobligeant et au contraire, tout ce que vous dites et ce que vous faites, c'est important et c'est intéressant. Il faut acheter ces bouquins, on est d'accord. Mais depuis le temps qu'on le dit, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? Il y a déjà très longtemps que Coluche avait dit, mais si on ne l'achetait pas, il ne le vendrait pas. Et ça prend pas. Alors, je veux savoir quel. Enfin, ça prend peut-être un peu. Et il faut continuer ce que vous faites pour que ça prenne plus. Mais comment est-ce qu'on identifie les facteurs de résistance à ça ?
J'ai une réponse aussi. C'est clair que bon. Je suis d'accord avec vos remarques et le pouvoir d'achat, je me demandais un petit peu, en effet, parfois on a envie d'en parler quand même parce que dire que, je ne sais pas, réparer ces objets, ça peut être du pouvoir d'achat, c'est une facilité d'usage, mais peut-être qu'il faudrait arrêter d'en parler, c'est une bonne question. Et ces freins au changement, il y en a pas mal, le fait de considérer que tout ça, c'est des enjeux trop lointains. On met de la distance par rapport aux conséquences. le fait de nier, voilà, comme on est un peu heurté par ce besoin de changer de comportement, eh bien, on va préférer faire l'autruche et nier ses impacts. Et donc, il faut arriver, en effet, à donner envie, d'où le besoin de changer d'imaginaire. Faut aussi, un des freins, je pense, c'est qu'on l'a dit, mais on l'a dit souvent en insistant sur le consommateur. Et comme le consommateur, il subit déjà la pub en permanence, et elle a un impact sur lui. Heureusement, bon, certains arrivent à la boycotter, mais globalement, la pub marche. 1 euro investi dans la pub génère 7 euros de chiffre d'affaires en global. Donc, ça marche. Et donc, il faut arriver à la réguler. Il faut arriver à enlever tout, à encadrer, voilà, qu'on n'ait pas tous ces choix nuisibles possibles. Je parle des biens mauvais, parce que c'est des biens néfastes qui sont sur nos étagères, nos étalages. Et donc, c'est en facilitant tout ce travail-là, en taxant les produits nuisibles ou en les interdisant, etc., qu'on va faciliter ce geste et arriver à ce que... Parce qu'il ne s'agit pas juste de consommer un peu mieux. Je ne vais peut-être pas rappeler, mais il faut consommer 3-4 fois moins que maintenant. Et donc, il y a quand même un changement radical à mettre en œuvre. Il faut un peu de tout. Il faut de la bonne volonté, il faut de la taxe, il faut de la norme, et il ne faut pas de pub, etc. Donc, je ne suis pas sûr que ça va suffire. Mais en tout cas, je pense qu'il faut déjà jouer de tous ces instruments pour déjouer le fait qu'on le sait depuis longtemps, mais on n'a pas en même temps mis toutes les chances de notre côté.
Et alors, je suis d'accord avec globalement avec cette réponse, mais je développerai sur le fait que faut vraiment se méfier de l'idée que le consommateur fait un choix libre et éclairé. Il n'y a pas de choix libre et éclairé dans une société qui est profondément construite par les possibilités ou les non-possibilités. Les très riches ont globalement un choix assez libre et éclairé, mais c'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Donc, l'injonction, enfin, se dire pourquoi est-ce que les gens n'ont pas changé de comportement, ben parce qu'ils peuvent pas. Enfin, si on prend un exemple, alors je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais qui est vraiment un truc très structurant de notre société, c'est la voiture. Moi, j'habite en campagne. J'aimerais bien me passer de voiture, mais il suffit pas de dire je peux prendre le vélo. Ma mère de 86 ans, elle va pas prendre le vélo. Quelqu'un qui est handicapé, il va pas prendre le vélo. Et puis moi, pour les trajets que j'ai à faire, ça ne marcherait pas beaucoup non plus, parce que je suis assez loin du train et des endroits où je peux faire mes courses. Mais pourquoi on en est là? Parce que toute la société, depuis plus de 50 ans, s'est organisée autour des déplacements de longue distance, des bagnoles, donc les commerces, mais même la vie sociale. Il ne suffirait pas juste de remettre des commerces partout. La vie sociale est organisée autrement. Enfin, c'est tellement lourd, c'est tellement imbriqué. Et on retombe sur ce que tu évoquais, Thomas, sur l'approche systémique. Tout ça, ça fait tellement système qu'on ne peut pas juste dire aux gens changer de comportement, ce n'est pas possible. Alors, on peut le dire, hein, il faut le dire, mais évidemment que ça ne marche pas. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ce qui peut marcher, c'est si, globalement, on construit une autre façon de fonctionner ensemble. Et ça, c'est un projet politique. Et c'est un projet politique au bon sens du terme. Enfin, et c'est des choses qui peuvent se faire. Alors, ça n'empêche pas de le faire par petits pas. Ça n'empêche pas de construire des choses localement, chacun à son niveau. Mais toutes ces personnes dont on se dit qu'elles ne font pas d'efforts, moi, je trouve que beaucoup d'entre eux en fait font des efforts, mais à leur échelle, au niveau de ce qu'ils peuvent aussi mentalement faire, parce que c'est lourd. Tu évoquais le fait que les petits pas qu'on va faire, les efforts qu'on va faire chacun, ils ne seront pas les mêmes parce qu'on aura d'autres priorités. C'est vrai pour tout le monde, quoi. Et donc, moi, je ne suis pas trop pessimiste ou pas trop râleur contre l'inaction d'un certain nombre de gens. Il faut que collectivement, on arrive à construire d'autres imaginaires, effectivement, tu l'as évoqué, d'autres choses qui fonctionnent. Et ça, ça se fait localement, ça se fait nationalement, ça se fait internationalement. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est des choses qui se combinent. Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est d'être conscient de la direction dans laquelle on va. C'est ça justement que j'ai trouvé très intéressant en concluant mon livre sur l'agriculture industrielle et de me rendre compte que plein de choses qui semblaient disjointes finalement s'inscrivent dans un projet, mine de rien. Je trouve que c'est très rassurant. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'un certain nombre d'acteurs, d'actions s'inscrivent dans le même projet, au lieu de les opposer, on va les combiner, on va les renforcer. Et à force de les renforcer, ça finira par peser.
Je complète juste avant de prendre votre question pour pourquoi ça ne change pas au niveau du plastique. Je pense que enfin, je vais un peu me répéter, mais c'est vraiment ce côté inconscient collectif. Le plastique est un matériau neutre et inaltérable qui est enfoncé, profondément engrammé en nous, qui fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'envie, en fait. Pourquoi changer à partir du moment où tout va bien, où ça n'est que des bénéfices? Je ne vois pas pourquoi je changerais. Donc vraiment, le truc, pourquoi ça ne change pas, bah, c'est s'informer sur la toxicité. Tous les plastiques ne sont pas jetés dans le même panier, mais s'informer sur cette toxicité, à quel moment, quel type de plastique, quels sont les moments où je suis le plus vulnérable, la plus vulnérable. C'est là que la clé du changement, elle va venir. Pour le plastique, je parle.
Et d'ailleurs, dans ton livre, tu donnes des conseils aussi un peu individuels.
Oui, bonjour, merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. J'avais une question qui est relative au changement, plutôt à la, est-ce qu'il existe une offre politique ou comment l'offre politique se saisit de vos enjeux? Alors, sur l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, je présume que les écologistes, depuis longtemps, ont un discours et proposent une offre politique d'alternative à l'agriculture conventionnelle. Je l'entends moins sur le plastique, un peu moins aussi sur la surconsommation, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, sur ces deux sujets-là en particulier, je suis désolé pour vous, Jacques, mais sur vos deux sujets à vous, est-ce que vous considérez que sur l'échiquier politique, il y a une résonance avec vos préoccupations? Est-ce que vous les sentez porté au bon niveau, et est-ce que vous sentez que ça, voilà, que l'offre politique fait avancer cette cause, vos deux causes respectives?
Sur le plastique, oui, il y a une conscience politique. Alors évidemment, il y a des disparités selon les pays, mais je vais prendre la France puisque voilà, ça nous rassemble. La France a quand même, au niveau mondial, plutôt une ambition assez haute et qui est notamment alimentée par une coalition de scientifiques qui sont super engagés et super experts du sujet et qui passent leur temps à faire les navettes avec les politiques, notamment avec les députés, en disant attention ça, attention ça. Et donc, il y a un vrai dialogue. Ça, c'est super. Et au niveau international, il y a un traité... Merci Thomas. J'ai collaboré avec un groupement de recherche, donc c'est C'est un groupement de 300 chercheurs spécialisés sur le plastique, issus du CNRS, de l'INRAE, de plein d'autres universités, et qui travaillent tous sur le plastique, mais c'est tellement vaste qu'il y a du boulot pour tout le monde. Et donc je fais une série dessinée, vous pouvez flasher le QR code et retrouver cette série dessinée pour expliquer les résultats de leurs travaux. Mais bon, parenthèse mise à part, il y a un traité international qui a été impulsé sous égide de l'ONU il y a 2 ans et demi. Donc plus de 170 pays se sont réunis pendant 5 rounds de négociations de plusieurs jours à chaque fois pour essayer de se mettre d'accord sur un traité juridiquement contraignant sur les pollutions plastiques. Bon, petit problème de départ, petit bémol, dirait Samuel, il y avait les pays dont l'économie repose sur la pétrochimie qui étaient invités à la table et qui ont torpillé du début à la fin les possibilités de négociation. Résultat, dernier round à Genève au mois d'août, on s'en est sorti sans traité. Bon. C'était bien essayé. Néanmoins, ce n'est pas complètement un échec parce que toutes ces collaborations pendant des mois et des mois intergouvernementales ont permis de faire basculer un certain nombre de pays qui étaient là, bon, le plastique, ce n'est pas top, mais voilà, à une ambition beaucoup plus élevée dont la France fait partie, dont plusieurs pays d'Europe font partie, y compris la Chine, qui quand même n'était pas gagnée au départ, qui, en dernière phrase de dernier jour, des dernières nuits de négociation, a switché. Et en fait, du coup, voilà, il n'y a pas de traité, parce que ça a été torpillé, et il valait mieux pas de traité plutôt qu'une coquille vide qui donne bonne conscience à tout le monde quand il se passe rien, mais qui, voilà, probablement va déboucher, on espère, sur rassemblons-nous entre gens qui sommes d'accord, pas à l'échelle internationale, tous les pays réunis, mais à plus petite échelle et avec une ambition plus marquée. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, c'est beaucoup de nuances à mettre dedans, mais c'est un exemple quand même. Voilà, l'ONU a conscience de ça et beaucoup de pays ont conscience de ça et donc ça va impulser. Mais après, il y a énormément de manquements dans la législation, y compris française. Interdiction du plastique à usage unique dans la loi AGEC votée en 2020 qui dit en 2040 comme objectif. Franchement, moi, j'ai rigolé vert en entendant ça.
Et c'est vrai qu'un des points communs avec les enjeux de surconsommation, c'est que sur les plastiques comme sur les produits nuisibles, on a besoin d'encadrer, de limiter ce qui va être mis sur le marché, quoi. Et donc une sorte d'autorisation préalable à rentrer sur le marché parce que ça va pas être assez durable ou parce que ça va être nocif pour la santé. Moi, par rapport à cette question sur comment les politiques se saisissent de l'enjeu, j'aurais tendance à dire que c'est clairement insuffisant, comme vous en doutez. Pourquoi ? Parce que finalement, tout le monde s'engouffre sur le thème du pouvoir d'achat. Personne, même chez les écolos, parce que finalement, ça fait bien, ça fait social de dire pouvoir d'achat. Et on se retrouve à dire faut augmenter les salaires, et même la décroissance qui est nécessaire. Enfin, il faut une décroissance matérielle de notre consommation, c'est évident. Alors peut-être qu'on aura des services qui compenseront, mais globalement, il faut réussir. Normalement, scientifiquement, on doit assumer ces faits. Eh bien, à part peut-être un peu Delphine Bateau et encore, enfin, il n'y a pas grand monde qui ose affirmer ces enjeux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même que, par exemple, Marine Tondelier récemment au plateau télé disait, voilà, rendez-vous compte, là, vous allez mettre Chine au BHV. Rendez-vous compte que toute cette consommation, il y en a un tiers qui ne va pas être utilisé. Rendez-vous compte que ce n'est pas des vrais besoins de la population. Donc, en fait, ces éléments de langage, ils sont quand même plus présents chez les écolos que chez les autres. Il y a quand même cet intérêt pour la chose publique, les impacts pour la société qu'on a plus mais dans certains partis. Mais quand même, je pense qu'on n'est pas allé au bout, et c'est pour ça que j'étais très heureux de me poser, à me forcer à écrire, parce que ça n'avait pas été vraiment théorisé, quoi. Ça n'avait pas vraiment été théorisé sur comment on fait concrètement, parce qu'on sait qu'il faut un peu moins de croissance ou plus de décroissance. On sait que agir à l'échelle individuelle, c'est pas suffisant, mais par quelle politique vraiment on y va ? Il n'y avait pas grand-chose, alors j'ai raté dans tous les bouquins que j'ai lus. Donc voilà, je ne dis pas que c'est complet parce qu'il faut encore l'enrichir, mais c'est vrai que j'espère que ça puisse être approprié davantage par les partis, notamment écologistes, parce que c'est une belle promesse, en fait, d'une vie meilleure, un peu plus loin de la consommation, mais un peu plus proche des gens qu'on aime.
J'ai quand même des éléments de réponse sur la question, parce que sur l'agriculture, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que autant l'agriculture bio en tant que projet est à peu près appropriée, alors par EELV, par LFI, par Génération, enfin voilà, un certain nombre de mouvements, un peu tous dans la même sphère, qui effectivement ont globalement pris en compte le fait que l'agriculture doit aller vers la bio. Mais c'est plus ou moins vrai. Et même dans le monde associatif environnemental, autant agir pour l'environnement a une position très claire de dire l'horizon de l'agriculture, c'est l'agriculture bio. Les autres associations environnementales, les grosses organisations environnementales nationales sont beaucoup moins claires à dire oui, il y a la bio, mais c'est ça. Parce qu'en fait, et il y a un truc qu'on a très bien vu quand il y a eu les manifestations paysannes il y a un an et demi, c'est même dans le champ politique de gauche, hein, si je prends le PC par exemple, c'est flagrant, enfin en tout cas de Roussel, c'est qu'il y a une sorte de clientélisme aussi et on rejoint toujours les mêmes discours de dire mais, et ça rejoint aussi toutes les histoires sur est-ce que les gens, c'est aux gens de choisir ou je sais pas quoi. À un moment donné, il y a un déni du fait que ce qui est fait aujourd'hui est le résultat de décisions politiques qui ont été prises autrefois et le résultat d'une structure économique et sociale, et on ne veut pas remettre ça en cause. Et quand il y a eu les manifs paysannes, on a eu presque tous les mouvements politiques qui ont soutenu les paysans. À raison, il faut soutenir les paysans. Mais ils l'ont fait toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait comme si le problème, c'est les normes. Mais dire le problème, c'est les normes, ça veut dire... En fait, c'est quoi le problème de l'agriculture ? C'est que le modèle d'une agriculture conventionnelle qui contrôle le vivant ne marche que dans un milieu tempéré où on peut obtenir des rendements extraordinaires en contrôlant le vivant. Dans le reste du monde, ça n'a jamais marché d'ailleurs. Dans le reste du monde, ça fait longtemps que la bio a de meilleurs rendements que le conventionnel, mais pas en Europe. Et ce modèle, il est en train de s'effondrer avec le dérèglement climatique. Et la réponse que donnent les pouvoirs publics, c'est de dire, et même la plupart des partis politiques, malgré tout, même quand ils, dans l'idéal, ils se disent la bio, c'est bien, mais leur logique, c'est de dire, bon ben, ouais, mais il faut que les paysans, ils arrivent à avoir un revenu
dans un contexte où leurs rendements sont moins bien garantis. Alors, comment on garantit des rendements dans un contexte de dérèglement climatique pour qu'ils aient un bon revenu? On va peut-être quand même autoriser des produits, on va peut-être quand même réautoriser l'acétamipride. Et donc, il y a un retour en arrière. En ce moment, on parle beaucoup de backlash écolo. En agriculture, il est très, très, très clair. Et pourquoi il a lieu? Parce que il y a cette idée que le truc qui s'impose, c'est les règles de l'agriculture industrielle mondialisée basée sur un cours mondial qui est un cours à perte, et il faut que tout le monde s'aligne dessus. Et donc, si tout le monde doit s'aligner dessus, quand il y a un problème climatique, la seule solution, c'est de foutre plein de pesticides ou d'irriguer et de faire des méga-vaccines. Alors que la vraie solution, c'est de se poser la question, mais au fait, dans ce contexte-là, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord reposer un modèle agronomique différent et ensuite voir comment on le rend rentable? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il amène un revenu aux paysans? Et donc, on ne pose pas les questions dans le bon sens. Et je pense que c'est vrai sur plein d'autres problèmes. Au lieu de se poser la question à la racine, de se dire de quoi on a besoin et ensuite comment on le rend rentable, on est juste sur l'aménagement à la marge. Et donc, même sur la bio, je dirais que même les parties qui sont plus dynamiques ne sont pas si efficaces que ça, parce qu'ils ont quand même tendance à raisonner dans un aménagement à la marge, alors qu'il faut remettre à plat la question agronomique. Et effectivement, les paysans aujourd'hui, ils ne sont pas dans un choix libre et éclairé. Les paysans, ils sont coincés. Ils sont coincés par un mode de production qui leur est imposé par 150 ans d'histoire d'économie agricole industrielle et 50 ans d'histoire de la politique agricole commune et 30 ans d'histoire de l'OMC. Là-dedans, les paysans, ils font ce qu'ils peuvent. Donc la solution, c'est sûrement pas de leur dire « débrouillez-vous pour passer en bio ». La solution, c'est de mettre en place d'autres méthodes agronomiques et de les rendre rentables. Donc de créer des filières, de modifier l'ensemble des structures de l'économie agricole. Alors bon, alors cela dit, oui, c'est quand même, il y a quand même une prise en compte politique du sujet, mais à mon avis, elle est très partielle et il y a encore un gros boulot à faire.
Et peut-être si je peux rajouter un truc, c'est on a eu tendance, les paysans sont coincés, mais les consommateurs aussi, comme on l'a dit, et on a eu tendance à miser sur l'information du consommateur. Bon, comme on va les informer, ça va aller. Et par exemple, sur les produits agricoles, moi j'étais frappé, là, il y a eu le label haute valeur environnementale par le ministère, et donc en tant que consommateur, vous vous dites, haute valeur environnementale, c'est bien, quoi. Bon, c'est peut-être mieux que ce qui n'est pas, mais quand même, on peut très bien faire du HVE en mettant plein de pesticides, en réduisant pas du tout les pesticides, si tu connais mieux que moi. Mais en gros, c'était le fait qu'on est coincé et on est mal informé.
Et ce label, en deux mots, HVE, il y a eu un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne qui a établi que du fait d'HVE, 99,9% des agriculteurs français peuvent recevoir les aides environnementales de la politique agricole commune sans ne rien changer à leur pratique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas de 99,9, puisqu'il y en a 15% qui sont en bio, etc. Donc, il y en a plein qui font quand même, qui changent. Mais structurellement, HVE permettrait à quasiment tous les paysans d'avoir les aides environnementales sans rien changer. Donc, voilà.
Merci. C'est une question pour M. Capla. Deux choses. Je voulais voir si... donc moi, je suis maraîchère bio. Le bio va pas bien. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un papier sur Agir pour l'environnement qui explique que le bio est quand même un peu en perte de vitesse pour le moment en France, dans certaines filières en tout cas. Je voulais voir un petit peu votre avis là-dessus, voir si un jour ça va vraiment sortir d'un marché de niche. Et la deuxième chose, c'est qu'en 2030, il y a quand même la moitié des agriculteurs français qui vont partir à la retraite. Et est-ce qu'au niveau politique, il y aura quelque chose qui va contrecarrer cette espèce de déliquescence totale de la souveraineté alimentaire française?
Alors en fait, il y a même une autre question en filigrane, parce que quand vous terminez sur souveraineté alimentaire, ça m'oblige d'abord à préciser cette notion de souveraineté alimentaire qui est l'objet d'un énorme malentendu. C'est qu'au départ, la souveraineté alimentaire, c'est une notion qui a été développée par le syndicat international de paysans qui s'appelle Via Campesina, dont la Confédération paysanne en France est le représentant. Et la Via Campesina, qui est un syndicat extraordinaire, c'est un syndicat qui regroupe des communautés paysannes à travers le monde. C'est le plus gros syndicat de l'histoire de l'humanité en nombre d'adhérents. Et ça regroupe des communautés paysannes, des groupes, des communautés autochtones, etc. Et ils se battent pour une écologie décoloniale, ils se battent pour les droits LGBT, ils se battent pour la place des femmes. Enfin, c'est un syndicat assez extraordinaire à partir des luttes paysannes, orienté autour des luttes paysannes. Donc je vous incite à penser à prendre conscience que les luttes agricoles paysannes peuvent être vraiment un élément très très structurant d'une pensée écologique moderne. Et la souveraineté alimentaire, dans leur définition, hein, qui a été reconnue ensuite par l'ONU, donc qui est une définition officielle, c'est, en gros, ça rejoint le droit à l'alimentation. C'est le droit des peuples à définir ensemble l'alimentation et l'agriculture dont ils souhaitent et à mettre les moyens en œuvre pour en disposer. C'est pas du tout un chauvinisme agricole, c'est pas du tout un souverainisme alimentaire. Or, ce qu'en fait la FNSEA, le syndicat productiviste, enfin un des deux syndicats productivistes en France, ou ce qu'en fait la droite, Macron et autres quand ils en parlent, c'est, ça n'a rien à voir. Eux, ils font du souverainisme alimentaire. On se protège et puis par contre, on exporte ailleurs. Quoi. Donc maintenant que j'ai recalé ça sur la souveraineté alimentaire et tout ça, alors je ne vais pas être trop long parce que c'est pas, faut pas non plus qu'on accapare sur ce sujet-là. Donc juste dire que par rapport à la crise de la bio et à ces sujets-là, il y a, je pense, aujourd'hui une situation de peur de la part des acteurs agro-industriels qui sont mis en danger par le développement des alternatives. Alors ça peut être un peu encourageant d'une certaine manière de se dire aujourd'hui on leur fait peur. Tant que la bio pesait 5-10%, c'était vu, y compris par les structures industrielle, c'était vu comme un marché de niche. Donc, la niche, ça ne les dérange pas. Depuis que la bio a dépassé les 10% au niveau européen, sachant que là-dedans, la France est en dessous de la moyenne européenne, la France était premier pays en surface et maintenant deuxième ou troisième, mais c'est parce que la France a la plus grande surface agricole européenne. Donc, on est premier partout, de toute façon, en agriculture. C'est facile, on est à nous tout seuls, on a quasiment la moitié des surfaces de l'Europe. Enfin, j'exagère un peu, mais en pourcentage, on est mauvais. Mais on a atteint, globalement, il y a un pourcentage qui a été atteint qui leur fait peur. Donc comme ils leur font peur, maintenant ils font la guerre. Maintenant ils font tout pour abattre la bio. Mais ils sont pas si enfin, la bio est puissante quand même. La crise de la bio est en train plus ou moins de se résorber aujourd'hui. Alors il ne faut pas être trop optimiste parce que, de fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la compréhension politique des outils à mettre en œuvre est presque à niveau zéro, en tout cas dans les partis de gouvernement actuels. Et de facto, en France et à l'Union européenne en tant que structure globale, parce qu'il y a des pays qui font des choses pas mal, mais aujourd'hui, il n'y a pas de quoi être très optimiste, effectivement, parce qu'ils ne veulent pas réformer les outils pour aller vers d'autres pratiques rémunératrices. Mais je reste optimiste parce qu'il y a quand même, une dynamique historique et une dynamique technique. Pour le coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas pour le côté fataliste de l'effondrement, parce qu'une fois, si on laisse s'effondrer sans rien faire, eh ben, ça peut être catastrophique au niveau humain. Dans le cas de l'agriculture, je pense que de toute façon, avec le dérèglement climatique, l'agriculture européenne s'effondre. Vraiment. Et toute la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va laisser crever les paysans ou est-ce qu'on va faire basculer vers la bio ? Et là, j'ai envie de me retourner vers ceux qui sont au pouvoir et de leur demander d'assumer cette responsabilité. Mais voilà. Après, sur la diminution de la population agricole, tout l'enjeu aujourd'hui, ben là, ça serait plutôt à quelqu'un de Terre de Liens qui pourrait répondre très bien là-dessus. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'installer des paysans et des paysannes en nombre. Et ça aussi, ça veut dire changer de modèle, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire on va remplacer une ferme par une autre. Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique fait que les gens qui partent à la retraite, très souvent, ont des fermes qui sont trop capitalisées pour être reprenables par un individu. Donc il faut pouvoir les reprendre à plusieurs, il faut pouvoir ensuite se partager les productions, faire des productions complémentaires. Tant mieux, ça permettra de prendre des week-ends et des vacances en étant plusieurs sur la ferme. Moi, je ne serais pas capable aujourd'hui de vivre comme a vécu mon père en prenant jamais de vacances ni de week-ends. Donc, il y a des choses positives qui peuvent se faire, mais là encore, il n'y a pas la volonté politique. Donc, je suis désolé de finir de façon pas super optimiste, mais malgré tout, je voudrais vous rassurer, je ne suis pas pessimiste. Il y a des outils, et peut-être c'est là-dessus que Terre de Liens, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Terre de Liens qui, dans la salle qui pourrait compléter.
Je ne sais pas, mais en revanche, on a deux questions d'intervention rapide, puisqu'il est 22.
J'y vais. Ouais, c'est à Capucine essentiellement là ma question. Je ne suis pas un grand fanatique du plastique. Il n'empêche, quels sont les produits qui pourraient les remplacer ? On a connu les bouteilles en verre avec Ah, on a connu les bouteilles en verre avec les consignes. Il y a des bouteilles en place en aluminium. Il y a des sacs en carton. Il est vrai que le plastique a tellement d'usages. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a une volonté quelque part de pousser d'autres modes de fonctionnement? Voilà.
Alors oui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour substituer un plastique par un autre ou un plastique par un autre matériau. Mais et j'en parle dans le livre, si vous voulez le feuilleter, il y a des plastiques biosourcés, mais qui présentent aussi beaucoup, qui sont largement à nuancer, parce qu'en fait, un, vous pouvez mettre du pétrole dedans, deux, les additifs, c'est exactement les mêmes que dans les pétroles conventionnels, donc en fait, vous déplacez le problème, mais voilà. Ensuite, il faut voir comment c'est biosourcé, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt avec des algues ou des déchets agricoles, auquel cas ça va, ça préempte pas nos ressources en sol et en eau. Ou alors, est-ce que vous allez faire pousser de la canne à sucre pour récupérer spécifiquement? Voilà. Donc, il faut vraiment se questionner là-dessus. Mais il n'y a pas de matériaux durables, en fait. Il n'y a que des systèmes durables. La question n'est pas de se demander par quoi je remplace le plastique, même si, effectivement, ça sera probablement par quelque chose de moins toxique, puisque c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Mais la question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et donc là, on rejoint les questions depuis tout à l'heure. Donc, ce n'est pas est-ce que j'achète ce jus d'orange dans un Tetra Pak, dans une bouteille en PET ou dans une bouteille en verre, mais est-ce que j'ai besoin et envie de ce jus d'orange? Est-ce que je ne peux pas acheter soit des oranges appréciées, soit carrément une pomme de chez mon voisin. C'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir, parce que sinon, ça mène à des dérives du type des entreprises qui développent des voiles synthétiques pour tracter des cargos qui économisent du kérosène, et dans ce cas, on est content, c'est 10, 20, 30, 40% de kérosène en moins. Seulement, ce cargo, il vient de Chine, il vient en Europe avec à bord des cargaisons de ultra fast fashion, 100% synthétique, bien évidemment, et qui repartent ensuite avec des déchets essentiellement en plastique vers là-bas qu'on ne sait pas traiter. Donc c'est plutôt voilà, se questionner sur l'objet ou le service en lui-même plutôt que se dire par quoi je le remplace, parce que sinon on arrive sur des... on déplace le problème, on arrive sur les PFAS qui vont imperméabiliser un carton. Donc on se dit, ok, mon gobelet il est en carton, ou mon contenant alimentaire il est en carton. Bah oui, mais en fait le carton ça n'a jamais absorbé, fait barrière à l'humidité. Donc il y a des PFAS à la place du plastique. Est-ce que c'est vraiment mieux? La réponse, je vous laisse réfléchir.
Alors, cas pratique et particulier, j'ai loué ce gobelet ici pour 1 euro. Qu'est-ce que j'en fais?
Je valide pas du tout ce gobelet, mais... qu'est-ce que vous en faites? Je sais pas, vous l'offrez, vous faites une tombola.
Alors j'aurais une remarque, question à monsieur Capla en fait. J'étais paysanne pendant 30 ans et je connais un peu les difficultés du métier. Ça me pose question ce que vous avez dit en tout début de votre intervention en disant la bio devrait être moins chère. Les produits bio devraient être moins chers que les autres produits. J'aimerais que vous expliquiez peut-être différemment, parce que pour moi, les produits bio, ils doivent être au juste prix pour le producteur et pour le consommateur, c'est-à-dire qu'on ne baisse pas les produits agricoles de qualité qui sont bons pour la santé et l'environnement pour pouvoir consommer du plastique ou des téléphones. Donc comment on peut faire en sorte que le paysan gagne sa vie, que le consommateur mange des produits de qualité et à un prix qui soit juste pour tout le monde?
Jacques, je te demande de répondre en 2 minutes. Comme ça, ça permettra à chacun d'entre vous d'avoir 1 minute de mot de fin.
D'accord. Alors en fait, c'est une fausse question derrière une vraie question, d'une certaine manière, parce qu'en fait, moi quand je dis il faut que la bio serait moins chère que le conventionnel, c'est la question relative. Qu'on décide que l'alimentation soit subventionnée ou non subventionnée, c'est-à-dire qu'elle soit payée uniquement par le consommateur ou qu'elle soit payée par la prise en compte collective des externalités de l'agriculture, dans un cas comme dans l'autre, la question c'est quel est le coût relatif de l'une et de l'autre. Et de ce point de vue-là, la bio coûte moins cher à produire en réalité. C'est-à-dire que si vous intégrez les pollutions et les coûts des dépollutions, la bio coûte moins cher à produire. Et si elle coûte plus cher aujourd'hui, c'est que les paysans bio, justement, la vendent malgré ça à un prix qui n'est pas soutenu, alors que le conventionnel est soutenu. Et donc ensuite, il y a une deuxième question en fait en filigrane. Est-ce qu'il faut soutenir les prix agricoles ou pas? Et là, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas d'accord avec un certain discours qu'il y a eu beaucoup, et je comprends beaucoup de paysans qui disent « je veux vendre uniquement au prix, au coût de revient ». Mais en fait, le problème, c'est que le coût de revient, il est différent. Le prix, le coût de production, il est différent d'un endroit à l'autre. Donc, ça crée des distorsions de concurrence de territoire. Et donc, moi, je trouve que c'est normal qu'il y ait des aides à l'agriculture. D'autant que si aujourd'hui, on consacre beaucoup moins de notre budget à l'alimentation, c'est pas parce qu'on consacre davantage aux loisirs, comme on l'entend souvent. Il y a toujours eu 30% d'un budget qui va aux loisirs. C'est normal, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. La question, c'est qu'on consacre de plus en plus d'argent au logement. Le logement qui n'est pas pris en compte dans le calcul de l'inflation, ce qui est une manipulation monstrueuse. Et donc, aujourd'hui, le logement coûte tellement cher que les gens dépensent de moins en moins dans l'alimentation. Si on remet tout à plat, pourquoi pas demander de payer les aliments à leur vrai coût ? Moi, je suis très d'accord. À défaut, je trouve... Si on aide l'agriculture, et je trouve ça pas absurde, bah à ce moment-là, il faudrait qu'on prenne en compte les externalités. Et dans ce cas-là, la bio devrait coûter moins cher.
Ce sera ton mot de la fin. Samuel, si tu veux dire quelque chose avant qu'on ne conclue. Et que vous n'alliez dédicacer vos livres, hein, puisque la table de dédicace est prête pour vous trois.
Bah, le mot de la fin, c'est peut-être... comme on est aux rencontres des pensées de l'écologie, et que... C'est une phrase d'André Gorz qui en fait renvoie à la fois ce qu'on va consommer en biens alimentaires, au plastique qu'on va accepter dans notre corps et dans nos vies. Il dit cette phrase intéressante, il dit « Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul est digne de toi ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. » Et ce qui est intéressant, c'est le côté voilà, d'avoir la dignité un petit peu de qu'est-ce qu'on va accepter ou pas dans nos vies. Bon pour tous en termes de santé, pour soi-même, pour les impacts qu'on a sur la planète. Et puis aussi, est-ce que ma consommation, elle va abaisser les autres ? Parce que c'est des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, avec tous les abus, les viols et compagnie qu'il y a, par exemple, derrière les terres rares dans les métaux qui fabriquent vos smartphones, ou bref, tous les différents esclaves qui existent dans le monde. Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui vont pouvoir avoir, par exemple, cette piscine privée et qu'en réalité, cette consommation-là n'est pas digne non plus parce que tout le monde ne peut pas l'avoir ? Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réflexion pour tous ces objets dont on a parlé, des impacts et puis finalement de ce que ça nous fait à nous et à notre dignité de pouvoir ou non consommer ces différents objets.
Et sur le plastique, retenir que ce n'est pas un matériau neutre et inaltérable et de chercher à comprendre en quoi il est toxique et comment ça se fait. Donc tout est décortiqué dans le livre et je pense que sans prétention aucune, vous apprendrez plein de trucs. En tout cas, moi j'ai passé mon temps à apprendre à chaque ligne et vraiment prendre conscience aussi du fait que se libérer du plastique ou du moins d'une partie des plastiques, c'est encore une fois, c'est joyeux et libérateur, que ça demande de se poser, de s'arrêter et de réfléchir. Et donc ça demande de l'énergie, du temps, de la concentration, tout ce que vous voulez, on peut rechigner. Mais qu'une fois que ce switch est effectué, c'est libérateur. Et rappeler, c'est une phrase que j'utilise à la fin du livre de Fernando Sabino qui dit « Faire de l'irruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, un rêve, du rêve un pont et de la recherche une rencontre. » En fait, c'est se poser, c'est cueillir la joie de la sobriété et elle nous aiguille tout droit vers la sobriété, vers la liberté, pardon. Et c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que c'est en se libérant de ce matériau qui moule nos vies, on trace un nouveau chemin qui est hyper léger et joyeux, plus léger que le plastique en tout cas.
Merci beaucoup à tous.